Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Brésil à Interlagos. Il a été incroyable en qualification et ce sont ses adversaires qui ont été verts. Et pourtant, en course, Nico Hülkenberg n'a pas réussi à mettre ce grain de folie dans la course qui était, il faut bien le dire, pas très passionnante. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que, oui, au Brésil aussi, ça pouvait arriver. Pour m'accompagner ce soir, il est à une semaine de son orgasme annuel. Bonjour Dino.
Bonjour Suzy, bonjour tout le monde. Je dois préciser parce que certaines personnes se sont inquiétées, enfin inquiétées, c'est un grand mot, mais sur Twitter se sont inquiétées de pas souvent me lire et suspecter chez moi le retour de l'effet papillon. Non, en fait non, c'est juste que là c'est vrai que on commence à être dans des courses un peu plus stressantes et que je les regarde un peu plus et je tweete un peu moins.
C'est vrai que cette année pour une fois on peut pas dire. Pourtant, le Brésil, on a l'habitude, comme justement, au moins c'est la fin de saison, il y a toujours des choses qui se passent. Et là, faut bien que ça arrive quand même,
ouais,
j'ai envie de dire.
C'était tout aussi un petit peu prévisible, tellement c'est serré que je pense que tout le monde se regarde dans les yeux. Et je pense d'ailleurs qu'à ce titre-là, la qualification et la pole du Hülkenberg bénéficient pas mal du fait qu'ils se sont tous regardés dans les yeux les uns les autres. Ils ont oublié de regarder autour d'eux, à savoir Hülkenberg. Et donc du coup, je pense qu'ils ont tous été très prudents et que, voilà, sur la course, ça a été pareil. Une course qui était vraiment pas... Bah, généralement, quand on commence à nous montrer les 8e, 9e, bataille pour la 15e
ouais,
place...
Vrai, ouais. En même temps, ça partait mal, hein, parce qu'il y a eu quoi ? Il y a eu un virage, il y a eu les Red Bull qui ont passé Hülkenberg, et là, tout le monde s'est dit...
Bon, d'accord.
Non. Nous étions le 7 novembre.
Oh non.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Nous étions donc le 7 novembre, la Sainte Karine, et non je n'ai pas de blague non plus cette semaine. Et donc, qu'est-ce qui s'est donc bien passé un 7 novembre? Eh bien le 7 novembre 1492, on a assisté à la chute de la météorite d'Ensisheim, qui est la plus vieille météorite dont on connaisse la date d'impact avec précision.
Wow.
Tu vois, avant, les plus anciens ont dit « Ouais, c'était il y a à peu près 10 000 ans ». Bah là, non, on sait que c'est le 7 novembre 1492. Ça change ta vie, hein.
Ah ouais.
Le 7 novembre 1659, la France et l'Espagne signent le traité des Pyrénées, qui met fin aux hostilités entre les deux pays et qui unit Louis XIV à Marie-Thérèse, la fille de Philippe IV d'Espagne.
Ouais.
Le 7 novembre 1917, très importante date de l'histoire,
oui.
C'est le début de la révolution d'octobre.
Et là, vous vous dites, mais comment est-ce possible?
Car les Russes utilisaient le calendrier dit julien, alors que nous, on utilise le calendrier grégorien.
Ouais.
Il y a à peu près 2 semaines d'écart. Et donc, pour le calendrier julien, c'était la nuit du 24 ou 25 octobre, même si en fait, c'est le 7 novembre. Le 7 novembre 1921, c'est l'ouverture du procès de Landru, celui qui serait un très bon VRP pour Invicta aujourd'hui. Le 7 novembre 1933, c'est le premier tirage en France de la Loterie Nationale.
Oh.
Et pas encore du loto.
Et c'était quoi les numéros, Cindy?
Mais je les ai pas. C'est la fin de saison, je me relâche, c'est normal. Le 7 novembre 1944, c'était Franklin Delano Roosevelt qui devient pour la 4e fois président des États-Unis. Alors c'est plus possible, hein.
Non.
Il y a un amendement
justement
fait que...
à cause de lui.
À cause de lui, voilà. Donc c'est maximum 8 ans, 2 mandats. En 1972, le 7 novembre est une date importante en Allemagne puisque c'est le rétablissement des relations officielles entre les deux Allemagnes. Donc au bout de 20 ans quand même. Et le 7 novembre 2000, c'est aussi une élection présidentielle aux États-Unis et c'est la fameuse élection de l'année 2000, hein, où on devra recompter les voix dans l'état de Floride, entre George Bush et Al Gore. Les naissances d'un 7 novembre, et une grande dame est née ce jour-là.
La Tour Eiffel.
Non.
Je t'en.
C'était en 1867, et c'était Marie Curie.
Ah, l'inventrice du Curie.
L'inventrice du Curie, hein, qui a eu un prix Nobel de physique et un prix Nobel de chimie, quand même.
Et un prix Nobel de cuisine, puisqu'elle a créé le
Masterchef. Ouais. En 1915, c'était un autre prix Nobel, c'était Albert Camus, prix Nobel de littérature. Et grande journée aussi pour la musique, puisque le 7 novembre 1967, 2 personnes sont nées. Il y a d'abord David Guetta. Ah, mais attention, c'est aussi le jour de naissance de Charlene Spiteri, chanteuse du groupe Texas. Ils nous ont quittés un 7 novembre, c'était en 1980, et ça doit pas être pour rien que France 3 a fait une soirée en son hommage il y a quelques jours, c'était Steve McQueen.
Oh.
Eh oui. Et, comme quoi, on n'est pas très loin en fait, le 7 novembre 1997, c'était le décès de Paul Ricard.
Oh.
On en a parlé, donc, inventeur du circuit.
Et du Ricard.
Et du, du Ricard.
Et je pense que d'ailleurs, beaucoup plus de gens l'aiment pour le Ricard que pour le circuit.
Les célébrations de ce jour, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. C'est très précis. En Argentine, c'est le Dia del Periodista Deportivo. Autrement dit, la journée de la presse sportive. Et en au Luxembourg, c'est la fête de Saint Willibrord. Hein, qui est le saint patron.
Comment?
Du Grand-Duché.
J'ai pas entendu.
Willibrord. Enfin, ça commence comme Willy, puis t'as une espèce de truc qui arrive dans ta gorge. Brord. Et donc, en F1, le 7 novembre, on va remonter au 7 novembre 1993, c'était le Grand Prix d'Australie, et c'était...
La dernière victoire de Senna.
C'était la 41e et dernière victoire de Senna.
Avec ce podium ô combien symbolique, puisqu'il a fait monter sur le podium Prost qui était deuxième.
Un peu comme quand j'avais parlé de Prost, je ne vais pas revenir sur la vie de Senna, car nous avons une émission à faire, et nous avons aussi besoin de dormir, et aussi besoin de travailler pour les prochains jours, parce que je pense que si on commence à parler de Senna, on en a pour plusieurs jours. Et alors, au début, je voulais me focaliser sur les dernières victoires, et en fait, en regardant, en cherchant dans Stat F1, il y a comme catégorie, en fait, on va parler quand même des dernières victoires, c'est l'intervalle entre la première et la dernière victoire d'un pilote.
Oh, c'est marrant, arrête en tête.
Alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est que, donc, dans la liste, ils sont 71, et le premier et le dernier sont allemands. Alors, le premier, tu l'as dit, ça nous étonne pas. Alors, est-ce que tu connais les deux extrêmes?
Dernière victoire, oh la vache, dernière victoire,
Enfin,
la première c'était Tchik, 93? 92?
Ah, tu t'es trompé, 92.
Dernière, ça doit être, ah, je me rappelle plus, 2006, le Brésil il gagne pas, il y avait pas la Chine en fin de saison en 2006?
Oui, il y avait la Chine en fin de saison.
Donc c'est peut-être Chine 2006 parce qu'il a cassé au Japon.
Exactement. 14 ans. Un mois et un jour, 238 Grands Prix.
Eh ben.
Et alors, est-ce que tu connais l'autre extrême? C'est-à-dire celui où, malheureusement, le plus petit écart entre sa première et la dernière victoire. C'est aussi un Allemand. Un Allemand connu, quand même, dans l'histoire de la F1.
Est-ce que tu as un indice sur la longueur de l'intervalle?
Il est malheureusement très court, mais parce que la fatalité est passée par là.
Je pense à quelqu'un, mais j'ai pas le nom. C'est blanc, c'est...
C'est Wolfgang von Trips.
Oui, oh.
Donc, l'intervalle n'est que de 1 mois et 23 jours entre le Grand Prix des Pays-Bas 61 et Grande-Bretagne 61. Ça fait que 3 Grands Prix d'écart. Et, malheureusement, il n'a pas pu continuer parce qu'il est décédé, je crois, lors d'essais, à Monza, je crois, en 61. Donc, vraiment, malheureusement, ça a été abrupt. Oui, c'est ça. Accident durant le Grand Prix d'Italie. On va prendre les 70, mais déjà on va prendre les 11-12 premiers. Il n'y a pas que des champions du monde, d'ailleurs. Alors, le deuxième. Hein, si Schumi est premier, avec sa longue carrière...
Moi, je dirais Prost.
Eh ben, c'est Prost. Tu as raison.
Mais t'as une idée de l'intervalle. Dernière victoire en 93.
Allemagne 93, ouais.
Et première victoire 82.
Presque.
83.
Non, dans l'autre sens.
81.
Grand Prix de France 81.
Ah bah là.
Ça fait 12 ans et 20 jours. 192 Grand Prix. Alors, qui peut y avoir en troisième position?
Troisième position, Loda?
C'est Loda, oui.
Oh là là, bonsoir.
Et bonsoir.
Ça va se gâter dans les 11 suivants, hein.
Alors, l'écart, c'est 11 ans, 3 mois et 28 jours. 176 Grand Prix. T'as une idée, ne serait-ce qu'en année, à peu près?
85, la dernière.
Pour la fin, oui, ouais.
Et
Pays-Bas 85.
La première, 74.
Espagne 74, sachant qu'il y a eu un creux entre... Et alors, d'après toi, qui peut être quatrième? On est toujours à peu près dans les mêmes époques, d'ailleurs.
Piqué.
Bravo, t'es super fort ce soir. 11 ans, 2 mois et 3 jours, 173 Grands Prix.
Bah, Piqué, la dernière, c'est en 91.
Ouais,
et
ça fait 11 ans.
La première, c'est en 80, 81, il était titré en 81, donc ça veut 80, non?
États-Unis Ouest 80, Canada 91, 16. C'est un homme des années 80, Nelson Piquet.
Bah oui.
Complètement. Et alors, en cinquième place, c'est encore un champion du monde.
Cinquième en cinquième. Mansell?
Non.
De la même époque, années 80?
Plutôt, beaucoup plus tôt.
Beaucoup plus tôt?
Lui, il a trouvé la solution pour prolonger sa carrière.
Pas Brabham.
Eh si.
C'est Brabham.
Eh ben. 10 ans, 9 mois et 25 jours. Entre Monaco 59 et Afrique du Sud 70.
Il a fini en 70, donc oui.
Voilà. Et il a fini tard. Et alors, en sixième.
Là, on est à 10 ans, donc déjà, on a des carrières assez longues.
Oui, on est encore sur 10 ans. 10 ans, 9 mois et 15 jours. Et on revient un peu sur l'époque qu'on est revenu à citer.
Bah, Senna.
Non.
85, 93, c'est pas assez. Mansell.
Non. Mais... T'es dans ses eaux, mais non. Hein, qui a eu une longue carrière. D'ailleurs, c'est le plus long sans avoir été champion du monde.
Berger.
Gerhard Berger, Mexique 86, Allemagne 97.
Ah ouais, bah oui, c'est vrai que j'oublie qu'il a été jusqu'en 97.
Eh oui. Et alors, en septième place, c'est aussi un pilote qui n'a jamais été champion du monde.
Septième place, donc là, il y avait une dizaine d'années, donc il doit toujours y avoir une dizaine d'années.
Toujours 10 ans, 5 mois et 2 jours.
Années 80, non?
Années 80.
Qui est dans les années 80? Justement, je me dis qui est dans les années 80, je pense Piqué, Senna, Prost, non, faut que je réfléchisse dans un autre ordre. Watson? Non.
Non.
10 ans. Il était chez quelle écurie? Ça m'aidera.
Alors, il a été chez Arrows, il a été chez Brabham, il a été chez Alpha, puis il est repassé chez Brabham.
Ah, ça me dit quelque chose, ça.
Et puis, il est passé chez Williams.
Ah, merde, ça me dit quelque chose.
Avant de finir chez Benetton.
Avant de finir chez Benetton?
Oui.
Brabham, Williams, Brabham, fini chez Benetton. Ah, je vois pas du
Attention,
tout.
Attention, blague pas drôle, la réponse c'est 12 ou 14.
Ah!
La blague à deux balles des fans de F1 pour reconnaître ce pilote.
Je ne dirai même pas la réponse. J'ai trop honte de ne pas avoir pensé à lui.
Nous dirons que son prénom est Ricardo quand même.
Voilà.
Et que, donc première victoire à Monaco 82 quand même.
Je pensais pas qu'il avait gagné si tôt, quoi.
Et Japon 92. Mais en plus, il a que 6 victoires.
Hein. Ouais, voilà. C'est...
Donc c'est très étalé. Et alors, en 8ème position, là on arrive...
C'est là.
Non, t'es pas encore ça. Non. Mais lui, il peut battre son record.
Bah, Rubens, alors.
C'est Rubens. 9 ans, 1 mois et 14 jours, Allemagne 2000.
Allemagne 2000 et Italie 2009.
Italie 2009. Et alors, en 9ème position.
Mansell!
C'est Mansell! 9 ans, 1 mois et 7 jours. Pas très loin de Rubens. Europe 85, Australie 94.
Où il remplaçait d'ailleurs Ayrton Senna.
Oui, exactement. En 10ème position, nous avons un pilote suisse.
Attends, il y a les... Au Suisse, un pilote suisse qui a gagné? Les 50, 60, ça?
Non.
Non?
Marche. Non.
Un pilote suisse?
Il a même roulé chez Ferrari.
Regazzoni?
Regazzoni, 8 ans, 10 mois et 8 jours. Italie 70, Grande-Bretagne 79.
Je m'excuse auprès de tous les fans de Ferrari, de tous nos amis suisses.
Quand même!
Parce que des Suisses en Formule 1, il n'y en a pas beaucoup, mais...
Il n'y en a pas beaucoup! Des Suisses qui pilotent pour Ferrari, il n'y en a pas beaucoup! Et alors, en 11ème position?
Ayrton Senna.
On a enfin Ayrton Senna.
Tu sais comment je le sais? Parce que t'as dit qu'on allait faire les 11 premiers. Je me suis dit, mais pourquoi donc les 11 premiers? Puis je me fais, il est parti
derrière Ayrton Senna. Non, j'ai dit les 12 premiers.
Ah, les 12 premiers. Donc je me suis dit, Ayrton Senna, il doit être 11ème.
Donc Senna est 11ème, 142 Grand Prix, Portugal 85 et donc Australie 93. Et en 12ème, un autre pilote connu.
Donc là, on est 85-93, on est à 8 ans. 8
on
ans.
Est toujours sur 8 ans. Mais on est beaucoup plus tôt.
Fangio, peut-être?
Non. C'est un pilote de la couronne britannique.
Alors, c'est soit un Canadien, soit un Néo-Zélandais. Soit un Australien.
Soit un Néo-Zélandais.
Ah, bah, McLaren, alors.
Oui, c'est Bruce McLaren. Bruce McLaren, 8 ans, 5 mois et 28 jours. Entre États-Unis 1959 et Belgique 68, qui est donc la première victoire de McLaren. Mm. Donc voilà, c'était pour les premiers. Et alors quand même, prendre ceux qui sont toujours là, qui peut-être peuvent encore améliorer leur score. Hein. Et donc, parmi ceux qui sont toujours là, le meilleur, enfin, à part Rubens,
oui.
Il est 17e. 7 ans, 2 mois et 0 jours.
7 ans, 2 mois et 0 jours, bah, Alonso.
C'est Alonso.
Il a gagné en... Hongrie 2003 et donc Corée 2010.
Voilà. À la 38e position, on a un autre champion du monde.
Bah Hamilton.
Non, 3 ans, 8 mois et 12 jours.
Ah bah oui, Hamilton, je suis con. Bah Hamilton, j'ai dit Hamilton. Je pense à Button. Non, je pensais à Button. En 2006, 2010.
Donc Hongrie 2006, voilà, Chine 2010 et en 42e position, en effet, on a Hamilton.
Ouais.
3 ans, 2 mois et 19 jours. Canada 2007, Belgique 2010. Qui, d'après toi, on a en 54e position?
54e.
2 ans, 2 mois et 6 jours.
2 ans, 2 mois et 6 jours, bah Vettel.
Non. Bah, il n'a pas amélioré son compteur cette année.
Vettel, c'est un peu moins.
C'est un peu moins, en effet.
Ça doit être un mois de moins. Et donc, 2 ans en vainqueur de Grand Prix, il n'y en a pas non plus de 3 milliards, Dino. Bah Massa.
Massa, 39 Grand Prix. Entre la Turquie 2006 et Brésil 2008.
Ouais.
Oui, il a pas gagné.
Ça fait un bail.
Bah bon, tout ce qui lui est arrivé et ce qui lui arrive. Et en 56e place, en effet, il y a Vettel. 2 ans, 1 mois et 24 jours. Ça joue pas beaucoup. Ouais. Enfin, Italie 2008, Brésil 2010. Hein.
Ouais. Et Weber doit être très loin derrière avec 1 an et demi.
Ou même pas.
Même pas, bah Allemagne, ah oui, Lana, oui, même pas, parce que la dernière victoire, elle remonte à, ah oui, à un an à peine alors.
1 an et 20 jours.
1 an et 20 jours.
20 jours. Allemagne 2009, Hongrie 2010.
Ouais.
Sur ce, nous allons passer à l'actu. Bonjour et bienvenue dans le journal du SAV daté du 8 novembre. Et tout de suite, on commence par le podium de l'actu avec des nouvelles venant de HRT.
Oui, alors des nouvelles qui semblent même être des bonnes nouvelles puisque HRT a trouvé un nouvel investisseur dans la personne de Juan Villalonga, ancien PDG, ancien patron de Telefonica, et qui a donc est donc venu renforcer un peu financièrement l'écurie HRT. Voilà, donc poser des bases plus saines que celles de cette saison.
Sachant qu'il y a les rumeurs d'accord avec Toyota.
Oui.
En plus.
Donc du coup, on va peut-être pouvoir, on a un petit peu tout dit hein, sur HRT. Hein. Globalement, j'ai même l'impression qu'on a résumé la saison d'HRT en termes d'actualité.
C'est presque ça, oui.
On peut peut-être passer à la deuxième place, Finji. Tu nous as dégoté une actu, je crois, dans un magazine.
Oui, alors faut noter que c'est un article de Toile et Fin. Hein,
oui.
Faut quand même les citer. Et en fait, ils ont repris un article qui a été publié dans The Paddock Magazine.
Wow.
Donc, qui a été publié sur le site internet de ce magazine, et ils ont fait un classement de la valeur publicitaire des 15 firmes les plus exposées en F1. Parce que la F1, c'est des sponsors,
oui.
C'est des gros sponsors qui dépensent énormément, mais on peut se demander, est-ce que ça rapporte, est-ce que ce sont vraiment des gros sponsors? Et donc, ils ont fait ce classement du top 15 où il y a des confirmés. Et puis des petites surprises. Alors, d'après toi, quelle est la marque qui est actuellement en F1 la plus grosse valeur publicitaire?
Je serais tenté de dire que, étant donné qu'ils ont leur logo sur 4 voitures et qu'ils ont une écurie qui cartonne cette année, je serais tenté de dire, qui a attiré vraiment les médias à cause de la lutte avec leurs deux pilotes, je serais tenté de dire Red Bull.
Eh bien, c'est Red Bull, en effet, qui a une valeur estimée de 152 millions de dollars. Faut rappeler qu'en début d'année, puisque vous savez que Red Bull n'a pas de sponsor titre.
Non, ils ont Red Bull.
Enfin, c'est ce qui est spécial, parce que bon, Red Bull, c'est une équipe sponsor d'une certaine façon.
Donc ils ont plein de petits sponsors en fait. On a même vu Sky qui est apparu cette semaine.
Il était question qu'ils aient un sponsor titre, ce qui serait assez drôle. Et on parlait déjà en estimation, et on n'était qu'au début de la saison, de 25 à 30 millions de dollars pour être le sponsor titre de Red Bull. Alors, quelle est d'après toi la deuxième place? C'est un sponsor titre d'une équipe de F1.
Santander.
Eh bien, ça n'est pas Santander.
Ah, c'est Vodafone alors.
C'est Vodafone.
Avec une petite vidéo de Button et Hamilton qui démontent une voiture.
Et alors attention, tu te souviens du chiffre pour Red Bull?
Oui, 150 et quelques millions.
152, eh bien Vodafone c'est 46,3. Tu vois un peu l'écart quand même.
Mais j'ai même lu une statistique sur les chiffres de présence à la télévision. Je crois qu'ils sont, depuis le début de l'année, Red Bull en est à 4 heures et quelques, alors que Ferrari en est à 50 minutes. Alors, on parle quand même de Ferrari. Ferrari, ces dernières années, c'est l'écurie qu'on voit le plus à la télé. Et là, on a 4 heures et 50 minutes. Voilà, c'est absolument dément.
Et alors, en troisième place, tu t'étais pas trompé de très loin, c'est Santander, avec 36,9 millions. Alors, quatrième place, c'est un autre sponsor titre.
Petronas.
C'est Petronas pour Mercedes, qui est quand même à 35,2, c'est pas rien. En cinquième place, j'ai envie de dire que c'est un peu moins sponsor titre. Je suis presque surpris parce que je me dis que, en fait, vu la marque que c'est, mais c'est vrai qu'on les voit peu sur les autres voitures, il pourrait avoir un chiffre beaucoup plus important.
Erasia, c'est un sponsor titre, alors, sponsor titre.
C'est un, oui, je joue un peu avec les mots, là, quand je dis c'est un sponsor titre.
Ah, bah, Virgin!
Non, c'est l'autre, j'ai envie de dire.
L'autre, ah, merde, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Devant ton dit qu'ils ne seront peut-être plus complètement là l'an prochain.
Ah, Lotus! Ah, bah oui, non, mais.
Non, pas Lotus. Ouais. C'est Renault.
Ah, Renault? Ah bah oui, je les considère pas comme des sponsors, moi.
Bah oui, mais bon, tu sais bien que l'équipe est plus vraiment non plus à eux. Et c'est vrai que, bon, sur la Red Bull, il y a le mot Renault est un peu petit, on peut le dire.
On le verra plus.
Mais on le verra plus.
Normalement, on devait même être censé le voir plus ce week-end. Puis comme on n'a pas vraiment beaucoup vu les Red Bull, on l'a pas vraiment vu.
Et donc Renault qui est quand même à 30,7 millions en cinquième place. Alors en sixième... je crois pas que ça soit le sponsor titre, mais c'est un sponsor qu'on voit bien sur la voiture.
HP.
Mais, alors non, c'est une marque qui est pas spécialement très connue en France d'ailleurs. C'est sur la Force India.
Kingfisher?
C'est Kingfisher en effet avec 21,5 millions.
Donc Vigimalia.
En septième position, une marque qui est à la fois sur les Red Bull et les Renault.
Total.
C'est Total en effet avec 18,9 millions. Et si on a Total en 7, j'ai envie de dire, en 8, qui peut-on avoir?
Petronas, Shell.
C'est Shell. Et alors, si on a Total et Shell, qui on est après?
Mobil One.
C'est Mobil One, avec 8 millions. Et on va rester chez McLaren avec le 10e, qui est une autre sorte de lubrifiant.
Ah oui, non, d'accord. Je pensais pas à ce genre de lubrifiant. Johnny Walker.
Oui, c'est Johnny Walker avec 6,9. Bah oui. En 11e position, une marque que tu as citée, qu'on peut dire est plutôt bien placée d'ailleurs vu le temps d'antenne. Non, c'est pas HP.
Erasia.
Alors lui par contre c'est un sponsor titre.
Oui, Erasia alors.
Non, c'est pas Erasia.
LG.
Non, c'est pas LG.
Merde. Virgin.
Tu l'as. C'est Virgin avec 6,2 quand même.
Ouais.
On les voit pas plus que ça, faut bien le dire, c'est pas mal.
Bah disons qu'il rentre dans ses frais, vu qu'apparemment il est très radin, Bronson, sur son écurie.
Qui suit de très près, alors là, c'est une marque qui est sur Force India, qui vaut 6,1 millions. Et alors si tu la trouves, t'es trop fort. Comme indice, ah, attention, ça va être un indice à... ça va être un indice tribut très compliqué. La première partie, il y a un chanteur qui s'appelle Barry. La deuxième partie, c'est un personnage de Stargate Atlantis.
White Taylor, what, white, white, ah merde, white Rodney, white, white, Shepard.
Rodney. C'est White et McKay.
Ah, White et McKay.
Donc, tout était dessus.
Oui, voilà. En même temps, les personnages dans Stargate Atlantis, il n'y en a pas non plus 3 milliards.
En 13e position, une marque néerlandaise.
ING?
Non, c'est pas ING. Qui a une valeur de 6 millions. Et donc, qui vaut plus que le sponsor titre que l'équipe, de l'équipe. Ils ont fabriqué la...
Ils ont fabriqué quoi, tu dis?
Alors, des cassettes audio, des rasoirs.
Gillette?
Des télés.
HSBC?
Attends. Tu peux aller devant ta télé.
Oui.
Ah. Va dans ta télé. Qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous?
Écrit Philips.
C'est bien ce que je me disais. Donc oui, parce que le sponsor titre de Williams, c'est AT&T.
Ouais.
Le géant des télécoms américains. Et donc, bah, Philips, en valeur publicitaire, ça vaut plus que AT&T. Mais en même temps, Philips, c'est une marque mondiale.
Ouais. Puis étant donné que, aussi, la F1 sur le public américain est pas très...
Oui. C'est même surprenant, donc, qu'ils sponsorisent.
Bah ouais. F1.
Et alors, en 14e, moi, je trouve que c'est une vraie surprise. Enfin, en même temps, c'est pas comme si on les voyait beaucoup.
LG?
Non. Tu sais, il y a eu des questions de carré blanc cette année.
Ah, Marlboro.
c'est Marlboro qui n'est que 14e. Alors, ce qui finalement, c'est faible, je trouve, par rapport. Enfin, c'est quand même une société qui est très marquée.
Oui, et puis surtout quand tu vois ce qui claque quand même bon comme budget chez Ferrari, voilà. Je crois que c'est plusieurs centaines de millions sur trois ou cinq ans. Et là, tu te dis, là, je fais le calcul, il gagne sur la saison, il devrait gagner moins de 6 millions.
Enfin, c'est la valeur publicitaire de la marque. On pensait que la marque serait beaucoup plus forte. Et alors, en 15e...
HP, je vais dire tout ce que j'ai dit. Tilt.
C'est pas un sponsor titre. On peut dire que c'est un sponsor titre. Mais c'est un peu comme Renault, c'est plus qu'un sponsor titre.
Lotus?
Non. T'es trop élitiste au niveau de tes marques de bagnole.
Lada?
Non.
Ça serait drôle. Non. Comme marque de bagnole. Cosworth?
Et ils sont sur trois équipes.
Mercedes?
C'est Mercedes. 5,6 millions.
C'est pas énorme.
C'est pas énorme, en effet. Donc voilà, c'est des marques. On s'attend, c'est quand même, c'est pas étonnant, Red Bull, Vodafone et tout ça, mais il y a quand même quelques surprises, et certaines marques qu'on pourrait penser mieux placées. Donc voilà, c'était tout, sur ce classement donné par The Paddock Magazine.
Wow, you speak English very well, Shinji.
Very well. Et alors, pour finir notre podium de l'actu, on va parler de deux équipes.
Oui.
On va parler de Lotus Renault, et de Lotus Renault.
Oh! Les deux équipes Lotus Renault, parce qu'ils vont réussir à battre Red Bull, hein, qui a quatre Red Bull, mais sous deux noms différents. Là, il y aura quatre autres, il y aura deux Lotus Renault et deux Lotus Renault sous le même nom, mais ce sera des voitures différentes.
Oui. Et qui s'aimeront pas.
Voilà.
Puisque, alors, d'abord, on a eu, l'annonce qu'on attendait depuis quelques semaines, c'est-à-dire du partenariat entre Renault et Renault a été très fin, puisque dans ses communiqués, ils disent pas qu'ils ont signé avec Lotus.
Ils disent qu'ils ont signé avec One Malaysia Racing.
Voilà, avec One Malaysia Racing. Sachant que l'équipe va aussi récupérer les boîtes de Red Bull et tout ça.
C'est d'ailleurs ça qui a lancé un peu la rumeur, c'est le communiqué de Renault qui a dit, mais attendez, mais pourquoi vous dites que vous fournissez à One Malaysia Racing Team?
C'est parce que peut-être que eux, ils savent, voilà.
Voilà, et il a été question que dans la résolution, en fait, que Lotus serait venu voir Renault, ils auraient réussi à trouver un arrangement avec Renault pour qu'ils fournissent les moteurs à l'écurie Lotus actuelle, afin que de négocier la non-utilisation du nom Lotus pour l'écurie Lotus actuelle.
Bah, on dirait que ça ressemble à ça, c'est que Renault sert un peu de, pas de monnaie d'échange, mais d'intermédiaire, voilà. One Malaysia aura comme des moteurs Renault, des pièces Red Bull, ils vont pouvoir, entre guillemets, se créer une image de marque, et en même temps, ils vont abandonner,
On parle d'ailleurs déjà d'un nom qui serait, il prendrait le nom, par exemple, de Air Asia. Puisque c'est l'écurie maintenant, elle est uniquement pilotée par Tony Fernandez. Et Fernandez, c'est Air Asia, donc pourquoi pas Air Asia, ça serait Air Asia Racing Team ou Air Asia Team ou voilà. Air Team.
Et donc quand même...
Après Red Bull qui donne des ailes, Air Team qui s'envoie en l'air.
Et donc ce week-end, les rumeurs ont dit que donc Lotus Cars... qui avait dit qu'il voulait revenir à la compétition et notamment à la F1, pourrait donc racheter les parts de Renault. Donc l'équipe qui était Renault deviendrait donc Lotus Renault.
Ouais.
Et alors ils disent qu'ils reprendre les couleurs noir et or, ce qui serait en plus une façon de reprendre du Lotus, mais en étant dans le prolongement de Renault, tu vois, un petit truc comme ça.
Tout en faisant quand même un énorme coup. Ça t'imagine déjà que tout le monde s'était dit, les couleurs de Lotus en début d'année, ouais, le vert et le jaune, etc. Là, t'imagines, l'année prochaine, quand ils vont présenter la Lotus Renault avec, déjà Lotus Renault avec, derrière les couleurs de GPS, tu te dis, bon, ok, d'accord, ok, ouais, là, on a une écurie historique.
Moi, la personne que je plains, c'est quand même Martial de Stat F1.
Oui.
Parce que tu imagines quand même que Lotus Renault, ça va être à la fois la succession de Lotus historique par Lotus Cars,
oui.
De Renault,
et, de Lotus.
Et donc qui dit de Renault, de Benetton, et en même temps de Lotus Racing, qui a pris le nom Lotus, qui se l'est adjugé, mais sans l'être. C'est-à-dire que en fait, si ça se trouve, Lotus va fêter une deuxième fois. C'était quoi cette année? Tu te souviens que les Lotus, elles avaient arboré un truc genre 200e grand. Donc ce qui serait comique, c'est que l'an prochain, ils fassent la même chose.
Mais en repartant
en considérant que cette année, c'était pas Lotus. Enfin voilà, c'est...
Oui, bon courage Martial.
Parce que déjà, avec les BMW, Sauber et tout ça, c'est... Mais là...
Mais en fait, on est toujours dans l'expectative parce qu'on ne sait pas vraiment, finalement, de quoi il s'agit. Parce qu'on a parlé d'une prise de capital. D'abord, du rachat purement et simplement des 25% de Renault. Puis ensuite, on a parlé du rachat d'une partie des parts de Renault, une entrée au capital avec toute une livrée Lotus pour se faire de la pub. Mais Lotus mettrait un peu d'argent dans l'écurie. En plus de rapporter un budget, apporterait également un actionnariat en fait.
Dans ces cas-là, en fait, ça serait Lotus Renault, mais pas dans le sens Lotus constructeur voilà. Et Renault. Ça serait vraiment une association Lotus Renault.
Et en fait, on parle aussi d'un contrat. C'est assez rigolo. C'est un contrat finalement où Lotus serait sponsor titre de l'écurie Renault. Et du coup, Lotus permet de s'offrir une équipe sans s'offrir une équipe.
Oui.
C'est un nouveau modèle en fait, c'est-à-dire que pour des constructeurs qui veulent pas s'engager, ils ont une équipe qui est déjà en marche, gérée par Genie Capital, etc. Et Lotus peut venir. Dans 2 ans, s'ils veulent, ils peuvent très bien prendre Lamborghini qui fera une belle livrée Lamborghini pendant 2 saisons, sans que Lamborghini s'investisse techniquement, mais qu'ils viennent juste vendre leur nom. C'est peut-être un projet à étudier, tu vois.
Et c'est vrai qu'en plus, Carlos Ghosn n'a pas été spécialement super clair.
Il a dit « on sera en F1 l'année prochaine ».
On sera en F1. Et alors en plus, il a beaucoup insisté sur le fait que c'était vachement intéressant d'être en F1 en tant que motoriste.
Oui.
En plus, on sait que Carlos Ghosn est la F1. Voilà, quoi. Et d'autant qu'il se dit, oui, que si Renault, entre guillemets, se retire de la partie châssis pour n'être vraiment qu'un pur motoriste, là, dans ce cas-là, leur top team, bon, c'est un peu Lotus Renault, mais dans ce cas-là, ça serait vraiment Red Bull. Et dans ce cas-là, avec un partenariat encore plus important avec Red Bull.
Ben c'est justement ça, c'est-à-dire que le communiqué a aussi annoncé le fait qu'il y avait un partenariat qui serait plus important avec Red Bull, donc une visibilité agrandie déjà dès le Brésil,
oui.
Il y avait apparemment les logos, le logo Renault était mis à l'avant de la voiture, etc. Parce qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais l'année prochaine, effectivement, on verra davantage le Renault, ce qui semble confirmer effectivement le retour en tant que motoriste. Mais moi personnellement, oui. Je trouve que à la limite pour Lotus. L'héritage de Lotus historique, c'est pas trop mal parce que ils ont montré de belles choses cette année Renault, mais il y a un savoir-faire, il y a une expérience, il y a quand même des titres de champion du monde acquis il y a moins de 10 ans. Donc il y a quand même une expérience dans cette équipe et une base dans cette équipe qui peut permettre mieux en tout cas que One Malaysia Racing Team, en tout cas de porter les couleurs de Lotus historique, l'écurie de Formule 1 de Colin Chapman, qui peut permettre de mieux porter les couleurs de cette écurie que ce qu'a pu faire cette année. C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire, bon, c'est très bien que la livrée, etc., mais malheureusement, Lotus, cette année, ils n'ont pas forcément fait superbement honneur
en Formule 1. Ils vont vendre les parts d'Enstone, ils vont être motoristes, et puis dans 10 ans, on va apprendre, oui, Renault revient en F1 en construisant son châssis et tout, parce que ce ne sont que des cycles. Voilà, c'est à peu près tout.
Moi, j'avouerais que moi, personnellement, je suis pas un fan d'historique, moi, le retour du nom de Lotus, je m'en foutais déjà avec l'équipe malaisienne, alors.
Alors, je pense à un truc, là. La fameuse Lotus qui est, vendue, tu sais, pour les particuliers. Elle est fabriquée par qui?
Par Proton. Non, par Renault. Par Lotus, Renault.
D'accord.
Voilà.
C'est pas par One Malaysia, parce que tu sais, ça serait con qu'ils soient obligés de renommer leur truc.
En fait, One Malaysia, ils se sont juste, c'est la même, c'est-à-dire que c'est le sponsor titre de Lotus qui va s'en aller chez Renault.
Voilà. C'est ça.
En fait, ils se sont juste servis du nom de Lotus, mais il y avait rien de Lotus. C'est-à-dire que, on se rappelle au départ, il y avait un projet d'usine Lotus dans le circuit de Kuala Lumpur, une vraie base à Kuala Lumpur pour l'écurie Lotus. Oui, mais le problème c'est qu'apparemment Lotus n'est pas du tout chaud pour ça, donc.
Ça prouve aussi que rien n'est perdu pour eux. Parce que c'est vrai que c'est une marque qui n'était plus là depuis 15 ans.
Ouais.
Donc personne, franchement, il y a encore un an et demi, le retour de Lotus, eh ben si, c'est possible. Voilà. On va passer aux hommes de l'actu.
Alors, non, chez nous avons une petite nouveauté, puisque grâce, tu parlais de Martial de Stade F1, moi je vais te parler de Dominique, de standf1.info, notre partenaire qui, on s'est arrangé avec lui pour pouvoir disposer des statistiques du site depuis le dernier Grand Prix pour vous donner, sur le site de standf1.info, vous donner, le podium des articles qui est arrivé en tête. Alors on a deux chiffres, on a un chiffre depuis le dernier Grand Prix jusqu'à à vendredi dernier, donc avant le Grand Prix du Brésil. Sur la troisième marche du podium, nous avions une campagne féroce contre Fernando Alonso au lendemain du Grand Prix de Corée.
Ouais.
Avec des rumeurs, enfin la presse britannique qui a sous-entendu que lors de son incident au stand, Massa avait retenu le peloton derrière pour permettre à Alonso de ne pas perdre plus de place, etc. Ce qui a donné lieu à des échanges assez virils entre presse britannique et presse espagnole.
Espagnole.
Qui sont ouais. toujours les premiers à s'enflammer dans ce genre de cas.
C'est hallucinant. Hein.
Sur la deuxième place du podium, sur la quinzaine entre le Grand Prix de Séoul, enfin le Grand Prix de Corée et le Grand Prix du Brésil, Cocorico, c'est un article du SAV qui est deuxième.
Oh, c'est lequel ?
C'est l'article sur les fantômes du passé 1986 et 1980 et 2010.
Très bon article.
Merci, Sudi. Et enfin, en premier, encore une fois Cocorico, mais pas pour le SAV, pour la France cette fois-ci, puisque c'était un article qui était consacré à Bourdet, qui a fait ses débuts en V8 Supercars.
En Australie ?
Oui, ah. Il a fait ses débuts. Alors, il y a eu plusieurs pilotes invités pour un meeting. Alors, je sais plus du tout. Je me demande si c'est pas Surf Force Paradise. J'ai un doute. Et donc, il y avait un meeting de V8 Supercars. Et il y a eu des pilotes invités, dont Bourdet, et qui a fait une très belle prestation, puisque je crois qu'il a... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a mené la course, j'ai un doute. Mais en tout cas, il a été aux avant-postes de la course avant de connaître un problème. Et de terminer dans les 8-9 pilotes. Donc c'est quand même très remarquable. Il a impressionné un petit peu tout le monde. Et il se murmure que peut-être son avenir irait du côté de l'Australie.
Pourquoi pas.
Et donc pour ceux que ça intéresse, on peut peut-être donner le podium provisoire, puisqu'on ouais. peut parler de podium provisoire depuis samedi. Nous avons le classement depuis samedi. Et pour le moment, le classement est le suivant. Le premier article le plus lu, c'est celui parlant de Poutine, qui a piloté une Formule 1.
Oui.
Oui. Le deuxième article dans le classement, c'est Williams qui révèle les secrets de la pole de Hülkenberg. Je pense qu'on en reparlera.
Oui.
Et le troisième article dans la hiérarchie est consacré aux tensions qui apparaissent de plus en plus entre Vettel et Weber à cette fin de saison.
Ça
a noté. Et je ferai une exception pour toi, Sylvie, parce que tu es un ami. À noter en quatrième position l'annonce d'un documentaire sur Kimi Raikkonen, sa saison 2010, sur la piste et en dehors de la piste, donc même en privé, qui devrait sortir en 2011 et dont vous pourrez retrouver sur le site standf1.info un lien vers le teaser. Un teaser de 2 minutes.
Oh, entre voilà. Le doc sur Senna et le doc sur Kimi, on va être gâtés.
Donc un film à voir, un must to be.
On a hâte de voir ça.
On passe aux hommes de l'actu, Shinji.
Ouais, je commence.
J'ai commencé parce que c'est un... Puisqu'on est sur le Brésil et qu'on parlait de Senna, j'ai envie de promouvoir comme homme de l'actu Emerson Fittipaldi, premier grand champion brésilien avec Carlos Pache, mais bon, lui, il était champion du monde. Emerson Fittipaldi a fêté les 40 ans de sa première victoire en 70, après le décès tragique de Rindt.
C'est pas Rindt, oui, qui l'a remplacé.
Le décès tragique de Rindt. Et il a notamment fait l'actu parce que TW Steel, le sponsor de Renault, qui est une marque de montres en plein essor, a décidé de lui dédier un modèle de montre.
Ah.
Donc voilà, j'ai failli faire une question actu qui parlait des montres. Et toi, ton homme de l'actu.
Mon homme de l'actu, ils sont même plusieurs, on peut le dire, et ce sont des hommes dont on ne connaît pas le nom.
Les Bee Gees.
Et j'ai envie de dire, on n'a pas spécialement envie de connaître leur nom. C'est quand même le gars qui a essayé, qui a braqué, qui a failli agresser notre Jenson Button adoré. Tu imagines un peu cette pauvre Jessica? Si le pauvre Jenson, il aurait eu cette cicatrice, ça aurait été horrible.
Je sais pas, parce qu'honnêtement, sur cette histoire, sur le fond de l'histoire, moi, ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que...
Donc, eux, ils étaient dans la voiture blindée.
Ils ont bien tenu à préciser que c'était une Mercedes.
Avec un conducteur qui était un membre de la police de San Paolo.
Enfin, bon, là-bas, tous les pilotes sont sous garde très rapprochée. Surtout les pilotes Ferrari, paraît-il.
C'est le paradoxe hein, de San Paolo. C'est le circuit, il y a une ambiance géniale, c'est la fête et tout ça. Mais c'est super dangereux autour.
Et ce que j'ai compris, juste, c'est que la manière dont Button l'a raconté, c'est qu'il était dans la voiture, et il était avec un gars, et ils se sont arrêtés à un moment donné, puis ils ont vu un mec sur le côté attendre, et ils ont deviné une arme. Donc ils se sont arrêtés, ils disent « Ah, il y a un mec avec une arme !» Et là, le chauffeur qui a entendu ça, il s'est dit « Une arme, il y a un danger pour le mec, j'accélère !» Donc on ne sait pas, Moi, en tout cas.
C'est à peu près ça, en fait.
On ne sait pas si le mec, il était là, juste parce qu'il a une arme et qu'il allait acheter du pain, mais qu'il a l'habitude de balader qu'une arme, ou est-ce qu'il en voulait vraiment à Jenson Button, parce que, apparemment, la Mercedes avait des vitres fumées, donc tout le monde se dit, mais comment pouvait-il savoir que c'était Jenson Button?
Oui, c'est vrai.
Ou alors, est-ce que, il cherchait quelqu'un d'autre, tu vois, le genre mec, il voulait prendre le PDG de Petronas, ou un truc dans le genre, ou un homme politique important, et puis là, il arrive, merde, Jenson Button, excusez-nous, on pourrait avoir l'orthographe, puis on se barre.
Alors malheureusement tous n'ont pas eu la chance, enfin il n'y a pas eu d'agression physique, mais je crois que c'est des gens de Sober qui se sont fait agresser, qui ont perdu des mallettes ou je sais pas quoi.
Bah d'ailleurs il y a eu la petite pensée de j'ai beaucoup aimé la phrase de Button qui a dit que on parlait beaucoup de l'insécurité parce que ça lui était arrivé à lui, mais qu'il tenait à rappeler que régulièrement bah il n'a pas été le seul à être victime, qu'il y avait des gens qui avaient déjà qui s'étaient fait voler des mallettes, des portefeuilles régulièrement, et que voilà, c'est pas parce que lui était pilote de F1 qu'il fallait plus en parler, fallait parler de ce problème-là parce que tout le monde en est victime malheureusement quand ils vont au Brésil.
Et certains se déplacent entre l'hôtel et le circuit en hélico, hein, rien que pour ça. Hein. Donc voilà, c'était quand même un fait marquant du week-end, le pauvre Jenson. Derrière sa vitre fumée. D'ailleurs, c'est pas con ce que tu dis. Comment ils auraient pu le reconnaître derrière une vitre fumée?
Mais alors, le pire, c'est que la personne qui, alors je sais plus qui l'accompagne, qui a donné une interview, a dit oui, non mais, alors même moi aussi, je me suis demandé comment ça se fait, le vitre fumée, comment ils ont pu le reconnaître, comment ils pouvaient être sûrs que c'était lui. Donc moi, je suis quand même convaincu que c'est, ils ont juste vu un mec avec une arme.
Ouais.
Que,
et ils ont paniqué,
quoi. Que le chauffeur a entendu le mot arme, donc il a paniqué, il a foncé en éborgnant des bagnoles, et que du coup dans la presse c'est devenu Button
tentative d'agression, ouais.
Alors qu'en fait non, il a juste vu un mec avec une arme, ce qui est logique au possible, quoi. À savoir que c'était arrivé, je crois, à Fangio, à Cuba, qui s'était
Fait enlever.
C'était fait enlever par les factions castristes, qui cherchaient un peu à se faire de la pub, qui avaient enlevé le champion du monde à l'époque. C'était quand même énorme. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas, on enlevait Schumacher. Et
voilà.
Et que les mecs l'avaient libéré assez vite en lui demandant des autographes.
On va passer aux citations.
Oui. Et il y en a eu. Hein.
Ouais.
Ah moi j'ai
t'en eu
parce que il y avait la fameuse guerre des mots de Ferrari et Red Bull, mais j'ai trouvé mieux au dernier moment.
Ah.
J'ai trouvé cette citation que j'adore, et d'ailleurs j'adore ce pilote, de Vettel, qui a déclaré « Je ne suis pas sur la piste pour donner les premiers soins, je pense qu'il y a assez d'ambulances autour du circuit pour ça ». Et il a déclaré ça, bien évidemment, à propos de...
À propos de Weber qui se plaint tout le temps.
À propos de Weber qui a un peu livré ses états d'âme, voilà.
Oui.
Il a dit que voilà, c'est... Mais en plus, il a bien fait, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas à prêter polémique. Et la réaction de Red Bull, je vous le dis tout de suite, ce sera mon drive-through. La réaction de Red Bull a été un peu démesurée. Il a juste dit dans la presse que voilà, il y avait un favori de cœur au sein de l'écurie, que lui n'avait jamais été défavorisé techniquement. Il disait, voilà, moi j'ai la même voiture, techniquement il n'y a pas de problème. Maintenant je sais que dans le cœur de l'écurie, Vettel est le chouchou. Et je le comprends, il incarne l'avenir, il incarne Red Bull. Ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, c'était juste cette citation sur ce contexte qui finalement est devenu une affaire pendant ce week-end, alors que ça aurait très bien pu ne pas être une affaire.
Alors moi, ma citation, c'est notre cher Bernie. Bernie qui est toujours dans la finesse, hein, qui est toujours dans la demi-mesure, hein, puisqu'il a dit « L'AF1 devrait se débarrasser de ses estropiés. » Attention, il fait le tri quand même. Parce que pour lui, Lotus, ça va.
Oui,
il y a de l'investissement.
Il ira plus à l'année prochaine.
Il y a de l'investissement, il se développe pour l'an prochain, ils mettent de l'argent, ça va. Déjà Virgin, ouais. Bon, il dit Richard, parce qu'après tout entre multimillionnaires, hein,
on se comprend.
Tutoie. Richard, il devrait mettre beaucoup plus d'argent dans son équipe, parce que s'il en mettait beaucoup plus, il pourrait faire un truc à la Red Bull. Mais bon, Richard, il est près de ses sous, ce qui est un peu paradoxal quand t'as une équipe de F1. Donc voilà, ça c'était son opinion sur Virgin. Et alors sur HRT, et c'est là que c'est le plus drôle, c'est qu'il a rien dit.
Oui.
Alors, mais... quand il dit rien sur HRT, ça veut pas dire « Oh, il a oublié de parler d'HRT ». Non, ça veut dire en gros, ça mérite même pas que je dise un mot.
Mais moi, sur HRT, je pense que ce qui le dérange justement chez HRT, c'est que contrairement à Lotus et contrairement à Virgin, il n'y a pas de milliardaires derrière, il n'y a pas de grosses boîtes. voilà, c'est juste des mecs qui montent une écurie, qui un projet à la base, qui est un projet à l'ancienne, à la Williams, à la McLaren, à la, voilà, un projet de passionnés du sport, soutenu par Carabonte et Villalonga, qui sont des partenaires financiers qui essayent de d'aider ce projet, qui sont devenus plus impliqués par la force du destin. Et je pense que ça le dérange. Avant il y avait les constructeurs pour lui. Maintenant, il y a les écuries comme Red Bull.
Pour le coup, ce sont vraiment des panneaux publicitaires sur roues.
Quand on voit comment Red Bull est heureux d'être champion des constructeurs, alors franchement, ils n'ont pas une voiture à vendre.
Donc il a dit, ouais, elles n'ont rien fait pour nous. Alors ça, je crois que c'est Lotus ou Virgin dit, ouais, en effet, on n'a encore rien fait. Mais justement, on espère s'améliorer. Donc voilà, c'était la citation de Bernie de la semaine.
Eh ben, c'est tout pour le JT, Shinji.
Pour le JT, oui.
Oui, mais tu sais que tu n'y passeras pas.
Non, t'as vu, j'y ai pensé pour une fois cette semaine.
Et là, cette semaine, t'y passeras pas. C'est l'heure de la question actu.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue. Youhou! L'actu! Où es-tu?
Alors, est-ce que ça a un rapport avec un Sao Paulo Game Show?
Non. Mais ma question n'a aucun rapport avec ce que j'ai pu déjà faire, Cindy. C'est une question totalement originale, puisque ma question est la suivante. Où Charlie Sweetheart succédera-t-il à David Scott 130 ans après?
Ça a un rapport avec le Grand Prix du Brésil?
Non.
Ça n'a absolument aucun rapport avec la F1?
Ça a un rapport avec la F1.
Ce sont deux Anglais?
Il y en a un, je suis sûr, il est américain, mais l'autre, je pense qu'il est anglophone. Mais la nationalité t'aidera pas.
130 ans, on parle quand même d'automobile.
Oui.
Est-ce que c'est c'est lequel celui qui était il y a 130 ans?
Il y a 130 ans, c'était David Scott.
Est-ce que c'est un des premiers à avoir, je sais pas, roulé dans une automobile?
Alors c'est l'un des premiers à avoir roulé dans une voiture. Mais oui.
Et dans ce cas-là, est-ce que le second va en fait, peut-être un parcours d'il y a 130 ans avec le modèle de l'époque,
non,
comme ça?
Non, il fera pas un parcours d'il y a 130 ans avec le modèle de l'époque.
Pourquoi c'était une actu qui sort maintenant?
Bah parce qu'elle est sortie maintenant, qu'est-ce que je te dise?
Mais non, mais je veux dire, est-ce qu'elle aurait pu sortir par exemple au moment d'Abu Dhabi, ou est-ce qu'il y a un lien quand même avec le Brésil?
Non, il y a aucun lien avec le Brésil.
D'accord. Mais c'est un lien quand même avec le championnat de F1?
Oui, ça en a un. Oui. C'est un lien avec l'histoire de la F1.
L'histoire de la F1. Oh, mais il y a 130 ans, la F1
elle n'existait pas.
Non.
Donc je rappelle ma question un peu pour les auditeurs. Où Charlie Sweetheart, qui eux ont Google, où Charlie Sweetheart succédera-t-il à David Scott 130 ans après?
La question c'est où en plus?
Où, ouais.
À Abu Dhabi?
Non. je peux même te dire que il lui succédera au mois de décembre prochain, en début décembre, mais que en fait il lui succédera pas en début décembre. L'indice pourri qui t'aidera pas.
C'est lié au Gala FIA?
Non.
C'est lié à la Race of Champions?
Non.
Ça aura lieu dans l'hémisphère sud?
Non.
L'hémisphère nord. Est-ce que c'est artistique?
Non. Ben oui, non. Disons que... Non, ce dans quoi il va lui succéder, c'est pas artistique. Mais c'est lié à une forme d'art. Mais c'est trop tordu que ce que je te dis là. Donc c'est pas artistique.
Mais son 30 ans, il n'y avait pas de F1.
Mais attention, hein. J'ai pas dit « il y a 130 ans ». J'ai dit 130 ans après. Je dis ça, je dis rien. Je te dis.
C'est quand même un truc.
Une question d'emmerde.
C'est un truc qui va avoir lieu cette année quand même.
Alors c'est quelque chose qui va avoir lieu cette année, mais en même temps qui n'aura pas lieu cette année. C'est-à-dire que tu pourras le voir cette année, même si ça n'aura pas lieu cette année.
Attends, là, tu pourras voir un truc qui aura lieu dans le futur.
Oui.
Ah.
J'adore cette question.
Il y a de la fiction là-dedans?
Ah oui.
D'accord. Donc c'est 130 ans dans le futur?
C'est 130 ans dans le futur. C'est pas vraiment 130 ans dans le futur. C'est 130 ans après David Scott. Après Jésus-Christ, il y a David Scott. Voilà, c'est...
Mais c'est quelque chose qui aura lieu dans le futur.
C'est quelque chose qui, dans la fiction, aura lieu dans le futur.
Aura lieu dans le futur. C'est un film?
Oui, c'est un film. Ça passera au cinéma. À l'occasion d'ailleurs de la sortie du monde de Narnia 3D.
C'est pas un truc avec des Renault?
Oui.
C'est pas un truc avec la lune?
Oui. C'est The Moon Race by Total.
paye Total.
C'est-à-dire, c'est une pub pour Total avec Renault qui passera donc dans les salles en 3D. Normalement, ce sera avant Mega Man ou un truc dans le genre. Enfin, je sais plus.
Mega Mind.
Mais voilà, Mega Mind et le monde de Narnia 3D, le 3.
En fin d'année, non.
En fin d'année, au mois début décembre. Et donc, ce sera.
Ils sont contre qu'ils le passent avant Tron.
Et donc c'est une petite publicité de 107 secondes en 3D qui raconte l'histoire de Charlie Sweetheart, un jeune enfant de 10 ans qui va être appelé par sa mère pour manger et qui va ce gamin s'endort vite, il a atteint une maladie, qui va partir dans le monde des rêves et il va se voir triple champion intergalactique et participer à la première course sur la Lune qui aura lieu donc à la fin du 20e siècle. Exactement 130 ans après, pas le premier pas de l'homme sur la Lune, mais le premier tour de roue de l'homme sur la Lune.
Ah oui.
De David Scott, membre de la mission Apollo 15, qui fut le premier à rouler à bord d'un véhicule.
La Jeep lunaire.
Sur la Lune, le fameux rover lunaire. Et d'ailleurs, il a aussi la particularité d'avoir été le premier architecte d'un circuit sur la Lune, puisqu'il a fait, je crois, de mémoire, 3 tours autour du LEM. Pour montrer un peu que le truc marchait bien, il a fait 3 tours autour du LEM et ensuite ils ont fait, je crois, le premier jour ils ont fait 7,5 km avec le rover et le lendemain ils ont fait 28 km. Donc voilà, après ça a été beaucoup plus long dans les missions suivantes, il y a eu 4 rovers qui ont été construits, ça a été plus long. Et donc
tout ça bon.
Ça s'est passé en 70 et donc en à peu près 2100. Oui. Et effectivement, il y a ce gamin qui rêve qu'il va participer à une course sur la Lune sur un circuit. Rassurez-vous hein. Ça sera pas un circuit en apesanteur. C'est quand même un peu version Wipeout, mais ils ont quand même des roues, hein.
Des roues.
Avec des Formule 1 qui ont des roues. Alors tout a changé, hein. Vous avez des Formule 1 avec des crêtes. Je vous conseille vraiment de chercher The Moon Race sur Google et de trouver le site qui est franchement génial, très drôle et qui est aussi en même temps une vraie réflexion sur est-ce que ça serait possible et quelles sont les contraintes sur la Lune, les contraintes physiques, etc. Alors la piste sera dessinée par un certain Tilkensen. Alors, Tilkensen qui trouve que enchaîner les lignes droites et les virages c'est pas très bien. Mais il y a mieux à faire. Il préfère mettre des loopings, etc. Et donc c'est une piste. Vous savez très bien que la gravité est 6 fois moindre sur la Lune que sur Terre. Donc en grosso modo, quand vous pesez 6 kilos sur Terre, ne pèse qu'un kilo sur la Lune. Ce qui fait qu'on vole pas, mais on est très léger. Et donc, alors, en fait, il y aurait sur la piste, elle serait conçue de telle manière qu'il y aurait des champs gravitationnels qui maintiendraient les voitures au sol. Les voitures qui iraient 2 fois plus vite que sur Terre. Et là, vous dites, mais oh, ils vont se tuer en sortant de la piste. Mais non, parce qu'en sortant de la piste, l'effet gravitationnel de la piste ne fait plus rien. Donc, on retrouve la gravité de la Lune. Donc, automatiquement, vous êtes ralenti, vous vous envolez. Comme une Red Bull.
Et là, et tu pars dans le vide intersidéral.
Non, parce qu'il y a des petites dépanneuses stellaires qui vous rattrapent et vous ramènent au box. Voilà. Et donc ça sera à voir dans les salles. Et je me suis dit que j'avais envie d'être créatif. J'avais envie de vous offrir un petit teaser de ce petit court-métrage.
D'accord.
Il y a bien longtemps, sur un satellite pas trop loin. The Moon Race. Épisode 1. The Moon Race. Au crépuscule du XXe siècle, en fonction de l'éclipse du 23 du calendrier de Chronos unifié, la guilde stellaire automobile, en partenariat avec le directoire interplanétaire du groupe Total, annonce l'inscription du premier Grand Prix sur la Lune au calendrier du championnat intergalactique de Formule 1. Devant plus de 120 000 spectateurs, transportés à bord du vaisseau Amiral T-Attitude, affrété par la Ligue terrestre des transports, Charlie Sweetheart, triple champion universel de la discipline, cherchera à conquérir une nouvelle victoire de prestige pour grossir son palmarès après sa pole position sur le triple loop du Grand Prix souterrain de Chandernagor et sa victoire lors de l'Ice and Fire Grand Prix de Saint-Pétersbourg. Mickey Lamèche, pilote de la BRR et plus sérieux rival de Charlie Sweetheart, se prépare également pour la course entre deux rendez-vous avec 3 ambassadrices vénusiennes au bar de Focots et le quadriathlon annuel sans les mains. Ancien champion intercontinental junior de boomerang tridimensionnel, diplômé en air pulsé en catégorie médium et également passionné d'origami, Théophile tentera lui aussi de décrocher la Lune pour le compte de la Little Princess Academy, financée par des SMS télépathiques. Mais à quelques instants du départ, les lumières virent au rouge.
Ah. réaliser mon rêve. Alors je tiens à dire que je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. Je n'ai fait que faire le montage et orchestrer un peu le texte, parce que tout ce que vous entendez comme délire, genre le quadriathlon sans main, champion de boomerang tridimensionnel, etc., c'est dit sur le site de The Moon Race. C'est-à-dire que c'est vraiment très décalé, hein. Il y a vraiment des informations très décalées, des personnages très décalés, et donc j'ai fait que réunir les informations, et encore, j'ai pas tout pris, mais j'ai fait que réunir dans cette bande-annonce les informations que j'ai pu trouver sur ce site, et en faire une...
Même pour les origamis?
Même pour les origamis! J'ai juste fait qu'ils donnaient une petite note personnelle dans l'interprétation, mais sinon, tout est du site Total Moonrace. Voilà.
Sur ce, on va passer à la course. Oui. Quand même.
Oui. La vraie, hein, pas celle de la lune. On sera peut-être pas là, hein, pour vous la raconter, celle.
The Brazilian Race. Et donc, on va commencer par cette qualif. Et j'ai envie de dire, quelle qualif.
Oui.
Hein.
Sans trop de suspense, alors, autant, finalement.
Autant moi, la Q1 et la Q2, je me suis un peu ennuyeux. Mais alors là, c'est vrai que la Q3, cette surprise de Q3, et en effet, il y a finalement pas eu beaucoup de suspense. Ouais.
Mais le suspense a été créé par le fait de est-ce que ça va tenir.
Oui.
Donc, en disant, oh, ça serait trop fort que tu fasses ça, ça serait trop fort.
Bon.
Et voilà.
Et Williams qui a expliqué d'ailleurs comment ils avaient réussi leur coup.
Ouais, parce qu'il y a quand même un gouffre. Alors ça a donné lieu à une discussion sur même un débat sur le site du SAV. Il y a quand même un gouffre de une seconde sur Vettel et Red Bull. Alors que derrière tout le monde est correct. Derrière il y a bien les deux Red Bull devant la McLaren de Lewis Hamilton et Alonso, donc on peut pas se dire il y a eu changement de donne ou quoi que ce soit. C'est vraiment Hülkenberg qui s'est propulsé en première ligne avec une seconde d'avance. Il y a forcément un truc.
C'est ça en plus qui était beau, c'est qu'il avait la pole et il a explosé son temps en plus. C'était vraiment feu d'artifice, c'était génial.
Une petite touche de l'artiste.
Et donc en plus il y a eu un peu l'aide de Barrichello, ils ont expliqué, puisque c'est Barrichello qui a dit que on pouvait peut-être monter les slicks. Ouais. Et donc comme Nico était sur le point vraiment d'entrer au stand, il a tenté le coup et il a su monter en température ses pneus, quoi. Ouais. Il a réussi à vraiment extraire le top de ses pneus.
Parce qu'à l'origine, en fait, beaucoup de gens se sont dit, ouais, ça se trouve, les top teams, Red Bull, McLaren et Ferrari, ont adopté des réglages pour le sec, voyant la piste sécher, alors que Williams a peut-être gardé des réglages pour la pluie, ce qui fait que ça lui donnait plus de motricité. Moi, je me demande si finalement, c'est peut-être pas l'inverse. Est-ce que les top teams ont été un petit peu conservateurs en disant c'est encore un peu humide, allons pas nous foutre dehors, parce que nous foutre dehors ça serait le chaos, ça serait ne plus être dans la course au titre, donc soyons prudents, gardons des réglages pluie et faisons pas trop d'artifices et trop de paris. Alors que Williams s'était dit on va tenter le pari, on annonce du sec, partons en réglage sec. Moi c'est la théorie que j'ai avancée, moi.
D'ailleurs, on note que bon, il y a Hülkenberg, il y a les quatre, et en sixième place, il y a Barrichello.
Qui d'ailleurs dit que lui, il a été gêné, enfin, il a été obligé de sortir de la trajectoire sèche sur un tour, et du coup, ça fait baisser ses pneus en température et qu'il a pas pu améliorer. C'est-à-dire que Barrichello aurait pu se classer, pourquoi pas, en deuxième, voire en première ligne.
Oui. Alors, à noter, donc, c'est la première pole position pour Nico Hülkenberg, oui. Bien sûr. La 126e pour Williams, alors c'était la première.
Depuis 5 ans.
Puis, je crois, depuis 5 ans, et c'était Hetfeld, je crois.
Ouais.
Et c'est la première pole position pour Cosworth. Alors, Cosworth, bien évidemment, en tant qu'entité indépendante de Ford.
Oui, voilà.
Parce que sinon, on doit être à près de 200, quelque chose comme ça. Hein.
Et d'ailleurs, la dernière pole de Cosworth, c'est Barrichello en 99.
Ouais, je crois.
Sur Stewart.
Et alors, de l'autre côté, notre place du con, alors.
Bah, c'est subtil, je crois.
Eh ben oui, encore une fois. C'est subtil.
Qui est doublement con parce qu'il a pris les 5 places de pénalité de il y a 15 jours, mais qu'il était quand même dans la place du con avant de prendre sa pénalité.
Ah oui, il était 18. Tu me diras, Liudi était 17.
Oui, hein. Voilà. Les Force India, c'est une catastrophe sur la fin de saison.
Ah oui, c'est terrible. Ils sont même plus bas que Toro Rosso. Ça devient critique, c'est dommage. Par rapport à l'an dernier en plus, et même le début de saison, c'est terrible. Et on peut aussi noter sur ces qualifs que, voilà, il y croyait un tout petit peu. En partant 11e, ça paraissait clair, ouais. Que voilà, c'était foutu pour le championnat.
Pauvre Button.
Donc Button, qui aura quand même été dans la course au titre jusqu'à l'avant-dernier Grand Prix, hein, pour un pilote dont on disait qu'il allait se faire défoncer par son coéquipier, oui. Voilà, par rapport à d'autres champions en titre.
D'ailleurs, il y a une phrase de lui où il a dit, dans une interview d'aujourd'hui ou d'hier, il a dit que pour lui, sa saison avait été une saison d'apprentissage. Quand on a un champion du monde qui dit « j'ai passé une saison d'apprentissage », alors qu'il est champion du monde en titre, là tu te dis quand même « sacré bonhomme ». Quoi.
En plus, cette année, il est arrivé chez McLaren, il n'a pas participé au développement de la voiture. Donc l'an prochain, voilà, on passe à la course.
Oui, avec plaisir.
Et tu seras content, d'après toi. Devine.
Il n'y a pas d'ex-écho.
Il n'y a pas d'ex-écho. Les auditeurs en ont cité 13, j'ai envie de dire 13 plus 1.
Merci qui?
Ah, ce qu'on peut le dire. Alors, Massa a été cité par les auditeurs.
Oui.
Buemi a été cité par Globen. Alguer Suré a été cité par Sato Kamikaze Buchor.
Alors, juste peut-être sur Massa, on peut peut-être juste lire les commentaires des auditeurs, parce que bon, c'est quand même un poids lourd de la course. Puis je crois qu'il y a pas d'autres, il y a pas beaucoup de commentaires sur les deux autres. Globen l'a mis sixième. Je le place en sixième position, principalement parce que le scénario de sa course n'est pas sans rappeler celle de Michael Schumacher en 2006, mais sinon rien de particulier.
Ouais.
On a Bilot qui l'a mis dixième, malchanceux avec les ravitaillements, mais on a vu un Massa bagarreur qui n'avait peur de rien devant son public. Dommage qu'il n'ait pas été récompensé. Tandis que Safcor se contente pour la dixième place d'un laconique amuseur public.
Ouais. Et il a eu une course très difficile, hein, faut bien le dire. Il a beaucoup tapé et d'autres. C'est vrai que ça a été compliqué. Pire, on sait pas ce qu'il y a eu sur son pneu avant droit, là, finalement. Parce qu'il y avait un truc, hein. Voilà.
Et c'est un miracle s'il revient... voilà, parce que même généralement, quand c'est mal fixé, ça saute assez rapidement dans les premiers virages.
Ouais.
Surtout après le S de Senna, qui est quand même très tortueux. Donc moi, je me demande s'il a pas tapé un vibreur qui aurait fait sauter un boulon, enfin, qui aurait fait bouger l'écrou et qui aurait donné du jeu...
Et donc, il faut quand même, pour citer Enzo, et qui a voulu rendre hommage aux forces de l'ordre en donnant un point au chauffeur de Button.
Oui.
Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, notre top 10.
Alors, tu m'as dit qu'il y avait aussi Alguer Suré qui était en dehors?
Oui, il a été cité par Sato Kamikaze et Buchor, ouais, en fait. Seulement.
Sato Kamikaze qui le met dixième et Buchor aussi qui le met dixième, qui nous dit Buchor, sa remontée aurait mérité qu'il ait la neuvième place, mais je n'ai pas du tout apprécié la façon qu'il a eu de défendre sa position, particulièrement face à Massa. Moi, généralement, quand c'est comme ça, je le mets même pas dans le top 10, quoi.
Dixième, c'est presque pas dans le top 10, hein. Donc, en dixième position, nous avons je l'ai mis dixième, les auditeurs l'ont mis dixième, tu l'as mis dixième, et donc naturellement, il finit dixième.
Ah.
C'est QFD, c'est Robert, ou Bob pour les intimes.
J'avoue que je l'ai mis juste parce qu'il a fuité derrière Hülkenberg, et que je me voyais pas mettre Hülkenberg comme je l'ai mis, et mettre Kubica très loin. Quoi qu'il est très loin.
Oh, il est très loin d'Hülkenberg, ça c'est sûr. Non, moi aussi je l'ai mis... pour compléter.
Oui.
Les auditeurs, ils ont dit quelque chose d'ailleurs. Ils ont peut-être plus d'arguments que nous.
Oui. Pas bête. Voilà, quand on a rien à dire, faut qu'on se concentre sur les auditeurs. les auditeurs, ils ont pas grand-chose à dire. On a Fab007, il a mis dixième en disant très respectueux des drapeaux bleus. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est pour ça que je l'ai mis dixième en fait, parce que c'est voilà. En même temps, quand tu respectes aussi bien les drapeaux bleus, c'est que t'as pas grand-chose à défendre.
Ouais.
Globen, qui l'a mis 9e, nous dit une course, à la Rosberg.
Oui.
Tandis que Sato Kamikaze le met 9e, Maël 8e et Steph Corr 8e en lui disant toujours placé.
C'est vrai.
Ouais. Ouais, c'est toujours Kubica. On peut passer au 9e.
On passe au 9e. Par l'autre Monsieur K, parce qu'ils vont toujours par paire, oui. Je sais pas pourquoi. Ça me fait chier à chaque fois pour prononcer leur nom. C'est Kobayashi. Alors là, c'est pareil.
Il y a un consensus.
9e. Tu l'as mis 9e. Et les auditeurs l'ont mis 9e. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on voulait pas le mettre derrière Kubica, mais voilà.
Mais ce que j'aime bien dans son discours, c'est que juste après la course, il a dit qu'il était pas content de sa course. Il était pas content de son résultat. En disant derrière, on a pris un point, pour l'équipe c'est important, etc. Mais il était pas content de son résultat. Donc on sent quand même le mec a envie de pousser l'équipe fort et de faire des résultats. Donc
Ah mais tu sais bien, ils ont une perle.
Ouais ouais.
Non, puis enfin en plus si. Ouais, il commence 12, il finit 10.
Ouais.
Voilà. Quand les auditeurs sur Kobayashi.
On a Steph Corr qui l'a mis 6e en nous disant simplement combatif. Puis tout le monde derrière la mi 9e. Enzo la mi 9e en disant moins explosif que lors de son dépucelage sur cette même piste l'an dernier. Le Parigo a trouvé des adversaires mieux montés et défendant plus fièrement leur peau que les Brésiliennes du pot de Boulogne. J'ai bien lu tout et tout ton top 10 avant Enzo. Sache-le. Je l'ai bien lu plusieurs fois en me disant là, faut pas que tu te fasses savoir. Et t'as failli me piéger sur ce coup-là, mais je l'ai senti venir avant. On a Maël qui le met 9e, on a Buchor qui le met 9e, il est encore et toujours dans les points, vivement qu'il ait une voiture à la hauteur de son talent, c'est tout à fait vrai. Bilo qui le met 9e, bonne course et encore dans les points, Fab007 qui le met 9e, une course honnête avec le matériel qu'il a. Et c'est tout pour Kobayashi.
Alors passons à la 8e place, et 8, 8 c'est presque 7 j'ai envie de dire. Et si je dis 7, ça te fait penser forcément à...
À Kaiser.
Hein? C'est vrai, et qui commence aussi par un K.
Oui, tiens. On va réussir à trouver que des K, tu vas voir.
Shumi, que j'ai mis 8e, que les auditeurs ont mis 8e. Et toi, tu étais un peu plus clément, tu l'as mis 7e.
Un peu plus clément, genre, il avait fait... Là, il fait une belle course. Non, mais j'avoue, de mémoire, je crois que je l'ai mis devant Rosberg.
Tu l'as mis devant Rosberg.
Et voilà, c'est juste parce que... Voilà, c'est bizarre, je sais qu'il est moins bon que Rosberg. Et pourtant, j'ai l'impression de le voir faire plus de choses que Rosberg.
Ah, c'est vrai qu'on l'a vu...
Ce week-end,
on l'a vu pendant la course.
Ce week-end, j'ai eu l'impression qu'il avait dominé Rosberg, alors qu'en fait, non.
Non.
Il a été... il a fait une très bonne course. Enfin, il a fait une bonne course. Mais non, il n'a pas dominé Rosberg. Alors que j'ai quand même l'impression que... J'ai tellement pas vu Rosberg. Malgré ses tentatives.
T'as pas vu Rosberg.
Oui, non, mais je l'ai vu, mais... À part il a fait un déplacement dans les S qui était sympa, je voulais pas, je me suis dit, oh ouais, c'est bien, on voit Rosberg, il est remonté et tout. Puis en fait, malheureusement, sa course a été un petit peu freinée par ses petits problèmes au stand, puisque Mercedes lui a mis les pneus tendres alors qu'il voulait il est parti en dur, ils lui ont mis des pneus durs alors qu'il fallait mettre les tendres, donc il a dû repasser au stand, au tour suivant, pour retirer les durs qu'il venait de mettre et mettre des tendres. Donc ce genre de bêtises lui fait perdre pas mal de points et
oui.
L'empêche de faire une course où il se montre plus. Et c'est vrai qu'en dehors des stands, finalement, on l'a pas énormément vu. Mais c'est terrible, je reconnais, j'ai conscience que la course de Rosberg a été meilleure, mais j'arrive pas à me convaincre de mettre Rosberg plus haut parce que je l'ai pas vu.
Comment ont jugé les auditeurs?
Alors, Shumi, on a Bilo qui l'a le mieux classé en le mettant 5e. Plutôt bon week-end, il reste dans une bonne dynamique sur cette fin de saison. Ensuite, on a Maël qui le met 7e, Sato Kamikaze qui le met 7e, on a Globen qui le met 7e également. Le plus expérimenté a su surmonter son impuissance chronique de cette année pour redresser ses performances en cette fin de saison. Il faut savoir que Globen s'est un peu mis au défi, en tout cas dans le début de son top 10, de faire son Enzo. Donc faites bien attention à tous les commentaires de Globen et écoutez bien les doubles sens qu'il peut y avoir. Mais je ne craquerai pas, Globen. Je préviens, je ne craquerai pas. Ensuite, on a Buchor qui l'a mis 8e. Belle performance et beau geste de sa part que d'avoir laissé rapidement passer son coéquipier chaussé de pneus neufs. Et donc, comme Buchor l'a mis 8e, fort logiquement, son 153, Fab007, l'a mis également 8e en nous disant « Bien ralenti par Sutil, il a été refroidi après un début de course plutôt enthousiasmant. » Nous avons également le commentaire d'Enzo, qui l'a mis 8e. Un bien meilleur Shumi en cette fin de saison. Très beau geste que celui de laisser passer Nico, qui a des pneus plus frais pour aller chercher Button. Ouais. Et enfin, en 9e position, il a été placé ainsi par Steph Core. Revient à la vie, mais c'est bientôt fini. Dommage. Steph Core est sans partage.
À la 7e position, si on devait le rapporter à une lettre K, ça serait la lettre K de son papa, de Keke. Et donc, c'est Rosberg, que j'ai mis 6e, que tu as mis 7e. Les auditeurs l'ayant quand même mis 5e.
Oui, Rosberg en a déjà parlé, donc... je préfère te laisser la parole, je t'ai dit.
Écoute, on l'a vu, je trouve, ce qui change. Alors bon, on l'a vu beaucoup au stand. Mais écoute, on lui donne des points quand on le voit pas. Alors quand on le voit, faut lui donner des points.
Mais faut qu'on le voie un petit peu en dehors des stands aussi, parfois.
Mais on l'a vu quand même. Je trouve dire.
Il peut pas compter sur Weber et sur les stands pour être vu à la télé, quoi. Mais moi, j'avoue que j'ai conscience d'être sévère avec Rosberg et de pas être juste envers lui, mais Et voilà, je n'adhère pas du tout à Rosberg, c'est terrible à dire, mais il y en a deux qui me laissent tout parfaitement insensible, c'est Rosberg et Kubica, c'est deux pilotes, j'adhère pas.
Je vais pas dire que t'as changé, mais après ton appel, je pensais que tu mettrais plus jamais de points à Rosberg.
Bah là, on l'a un petit peu vu, donc je lui ai donné un petit peu de points. Parce qu'il a fait un petit dépassement sympa dans le S de Senna, mais...
Et qu'ont dit les auditeurs de Rosberg?
Oh, j'en ai marre de lire ce qu'on dit sur Rosberg, c'est dit.
Alors. Mais dis pas qu'ils disent aussi qu'il a fait une course à la Rosberg.
Non, pour une fois, ce qui s'en rapproche, c'est Steph Corr qui nous dit, en le mettant en 7e position, il nous dit, entre-aperçu. Du coup, c'est vrai que c'est percutant comme remarque. On a Enzo qui le met 5e, non qualifié en Q3. Nico a pour une fois été sur le devant de la scène pour se hisser jusqu'à la 6e place. On a Maël et Sato Kamikaze qui l'ont mis 6e, tout comme Bilo qui nous dit, pas bon en qualification, mieux en course, mais toujours aussi invisible. J'espère pour lui que c'est à cause de sa voiture. Fab007 aussi l'a mis 6e en nous disant il a enfin trouvé la parade. Il repasse 15 fois par les stands pour attirer l'attention. Bien vu. Tu vois, quasiment tout le monde est d'accord. On a Globen qui l'a mis 8e et qui nous dit « Je me souviens avoir tweeté à son propos, mais je ne sais plus pourquoi. » Et on a Bûcheur qui l'a mis 7e, moins discret que d'habitude, mais toujours aussi efficace et constant. Voilà. J'aime bien le « moins discret d'habitude ». Il n'y a pas une seule fois, hein. Oh, pour le fond, on l'a vu, quoi. C'est juste moins discret.
Je crois, il traînera à vie cette sale image. C'est terrible. Vu que tu ne l'as pas beaucoup vu, je suppose que tu n'as pas grand chose d'autre à dire sur Rosberg.
Attends, c'est moi qui ai dit plus de trucs sur Rosberg. Mais tu sais, moi, même les mecs que j'ai même pas vu, même les mecs que je connais pas, je pourrais te dire des trucs dessus. Mais puis toi, je te dis.
À la 6e place, c'est Jenson Button, que j'ai mis 6e. Que Dino, tu as mis 5e, les auditeurs l'ayant mis 8e. Button, c'est pas une folle remontée, hein, il passe de la 11e à la 5e place, mais quand même, il réussit à monter à la 5e place.
Ouais, et moi je suis convaincu qu'il aurait pu être mieux.
Ah, carrément.
Bah oui, étant donné qu'il finit la course à une seconde et quelques de Hamilton, je crois.
Oui.
Lors du dernier ravitaillement sous safety car, Hamilton chose des durs, quand Button chose des tendres.
Ouais.
Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire, mais... comment cela se fait-il que Button, avec ses tendres, n'ait pas réussi à dépasser son coéquipier qui était en dur? Et là, je me dis, ah mais oui, mais dans ce cas-là, il lui aurait pris 2 points. Donc du coup, Hamilton...
ça aurait pas servi à grand-chose.
Tu fais pas ça à ton coéquipier, on sait jamais, il suffirait qu'il y ait un chaos entre les 3 premiers et qu'Hamilton gagne. Il est champion, pour 1 point. Voilà, donc peut-être qu'il s'est dit je vais pas faire ça à mon coéquipier, ou peut-être qu'on lui a dit écoute ça serait bien que tu restes derrière Hamilton, mais je trouve quand même assez bizarre que lui qui remontait très fort et qui à un moment donné il roulait très, vraiment très fort derrière Hamilton, tout d'un coup c'est bizarre, on en a plus entendu parler, il était derrière Hamilton mais il arrivait pas à faire la différence,
non,
alors qu'Hamilton était en difficulté avec ses pneus, qu'il avait des durs. Je trouve quand même ça...
Il avait déjà fait une croix sur le championnat après sa qualif, alors bon.
Oui, voilà, non mais je pense que voilà, il a joué le team player et je lui reproche pas. Hein. Mais voilà, moi je suis quand même convaincu qu'il aurait pu faire mieux, moi je pense qu'il aurait pu faire 4e.
Les auditeurs, comment ont-ils jugé Button?
Alors c'est très très varié, ça va de la 4e place que lui attribue Fab007 en nous disant l'ouverture des jeux en ligne à la concurrence l'a motivé cette saison, et encore un pari réussi. Jusqu'à Maël, qui le met 10e.
Oui.
Et entre deux, on a Steph Corr qui l'a mis 5e, en disant simplement « se sauve du ridicule ». On a Enzo qui l'a mis 6e, très belle remontée de Button, peut-être même un peu plus rapide de Lewis que Lewis par moment, mais il a joué le jeu de l'équipe en le laissant devant. Ensuite, nous avons Bûcheur qui l'a mis aussi 5e, belle place malgré une position un peu loin sur la grille. Nous avons Sato Kamikaze qui le met 8e, tandis que Bilo l'a mis 7e. Très mauvais en qualification, il a effectué une assez bonne remontée, mais sans plus. Et donc globalement, les McLaren ont été discrets ce week-end, comme je m'y attendais.
Ça n'a pas été un grand week-end pour McLaren. De toute façon, on le dit, les dernières courses sont pas spécialement à l'avantage de McLaren. D'ailleurs, puisqu'on a parlé de Button, on va parler d'Hamilton.
C'est les doublés qu'on a là. On a les deux cars, ensuite les deux Mercedes, ensuite les deux McLaren.
Voilà, les deux McLaren. Donc Hamilton, que j'ai mis 5e, que les auditeurs ont mis 5e, et toi tu as mis 6e.
Oui.
Et dans les mêmes eaux, il a presque été plus discret même que Button, parce que Button fait une remontée, et Hamilton, bon...
apparemment il avait des problèmes avec ses pneus, donc il a bataillé pour garder sa place et voilà maintenant.
Oui, c'est lui qui s'est beaucoup plaint souvent qu'il avait pas d'adhérence.
Oui, je pense qu'il a peut-être eu une course plus difficile et que peut-être que Button a été plus facile. Voilà, mais c'est vrai qu'il a une course plutôt discrète. Il a peiné à passer Hülkenberg, il a passé, je crois, mais c'est vraiment parce que Hülkenberg est entré au stand ou entré dans le genre. Je crois même qu'il a dépassé quand Hülkenberg est entré au stand. Mmh. Voilà, on n'a pas senti un Hamilton dans les grands jours, sans doute parce que pas content de sa voiture et que, pas content de sa voiture, il s'est peut-être un petit peu démobilisé. C'est seulement vers la fin avec la safety car qui s'est, tout d'un coup, ses pneus marchaient bien, tout était nickel sur la voiture.
Alonso était déjà trop loin, quoi.
Bah avec les intercalés.
Et les auditeurs sur Hamilton?
Alors les auditeurs, c'est très disparate, comme toujours avec Hamilton.
McLaren, c'est déjà, enfin, Button, c'est plus rare, mais Hamilton, c'est souvent le cas.
C'est très disparate puisqu'on a Buescher qui l'a mis quatrième.
Ouais.
Il termine logiquement là où lui permet sa voiture.
Mmh.
On a Sato Kamikaze et Mael qui l'ont mis cinquième. Tout comme Globen qui nous dit, à vrai dire, il n'a jamais vraiment été dans le coup, mais ce résultat, s'il ne lui permet pas de rester aux avant-postes, est néanmoins correct et permet de confirmer sa domination sur son partenaire en cette fin de championnat. Comme dirait l'autre, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. On a Fab007 qui l'a mis septième, tout comme Enzo. Fab qui nous dit, un début de course plus que poussif qui a ruiné sa course. Tandis qu'Enzo nous dit, c'est beaucoup plein du comportement de sa monoplace pendant la course.
Ouais.
Et enfin, nous avons Bilo qui l'a mis huitième. Il n'a pas battu les Red Bull samedi. Il fait une erreur en course au deuxième tour qui lui coûte très cher car à Abu Dhabi, il faudra plus qu'un miracle. Voilà. Parce qu'il faudra rappeler qu'il a sur une petite glissade dans le quatrième virage qui se fait dépasser par Alonso. Même si
ouais.
Moi, je veux donner quand même pas cher.
Il est pas le seul. Il est pas le seul à avoir glissé à cet endroit.
Même de toute façon, ça faisait un tour et demi, je crois qu'il était sous la pression d'Alonso et qu'Alonso cherchait l'ouverture et que je pense qu'Alonso l'aurait trouvé. Plus difficilement, mais je pense qu'Alonso l'aurait trouvé.
On passe à la quatrième place. Et à la quatrième place, nous trouvons Fernando Alonso, que j'ai mis troisième, que les auditeurs ont mis troisième, que moi j'ai même mis deuxième, parce que à ce niveau-là, j'ai plus ou moins suivi le classement. Mais il est quatrième, pour pas beaucoup d'ailleurs. Pour pas beaucoup. Alors, franchement, s'il avait pas été bouchonné par Hülkenberg, parce que quand même une belle petite bagarre d'ailleurs, faut le dire, en début de course, hein, entre Hülkenberg et Alonso, est-ce qu'il aurait pu tenir le rythme et au moins menacer les Red Bull?
Bah même en étant loin, une fois qu'il avait passé Hülkenberg, il faisait des temps sensiblement équivalents à eux, et puis il a eu un passage où il a aligné meilleur tour sur meilleur tour. Voilà, les Ferrari, elles ont un meilleur rythme en course qu'un rythme en qualif. Voilà, là où les Red Bull sont très bonnes en qualif et ont un rythme en course qui rentre un peu plus dans la normale, elles sont moins voraces en course qu'en qualif. Et moi, je pense que c'était équilibré. Je pense qu'avec quelques secondes seulement d'écart, on l'a vu à la fin, il a mis une pression du feu de Dieu. Voilà.
Donc pour le coup, le fait qu'il était retardé par Hülkenberg, ça a beaucoup joué donc dans ce cas.
Mais globalement même Hülkenberg, il a faut être honnête, il a ruiné la course de tout le monde, il a ruiné même l'enjeu de la course puisque il a laissé partir d'abord il a laissé Vettel partir, Vettel a pris 4-5 secondes d'avance un peu sur Weber qui quand il a réussi à passer Hülkenberg a repris un peu de son retard mais a jamais été en dessous des 3 secondes. Puis derrière quand Alonso est passé ça a été pareil, mais il avait 10 secondes. Puis après, quand Hamilton a enfin passé, il avait 10 secondes de retard sur Alonso. Ça pouvait continuer comme ça. Il ravitaillait pas Hülkenberg, ça continuait comme ça. Et Hülkenberg gagnait des places au fur et à mesure, parce que finalement, il retardait tout le monde. Donc les écarts, c'était de 10 secondes en 10 secondes. Donc voilà, mais après, ça fait partie de la course aussi. Je pense qu'il a bien défendu sa place, il l'a fait proprement. Et que, voilà, tout simplement, Alonso a eu du mal à le dépasser. D'ailleurs, il l'a dit qu'il avait été très difficile à dépasser. Voilà, heureusement qu'il y a eu la safety car pour relancer les choses et qui nous a permis d'entrevoir un peu ce qu'aurait pu être la course sans Hülkenberg. C'est-à-dire que Alonso aurait peut-être pu au moins titiller Weber pour la deuxième
fois. Weber, ouais. Alonso qui, encore une fois, fait un podium.
Je crois que c'est le septième d'affilée, non ?
Écoute, je crois que c'est depuis l'Allemagne.
Oui.
À l'exception de la Belgique. Oui, voilà. La Belgique, il a abandonné. Sinon, il a fait que des podiums.
Ouais, ouais. Bravo.
C'est, voilà.
Mais moi, alors, moi, je l'ai mis deuxième. Parce que j'ai aussi jugé, alors je l'ai jugé, par rapport au championnat. Je trouve qu'il a, quand il a vu qu'il était à 10 secondes des Red Bull, il a pas cherché à trop attaquer, il a été prudent, il est resté dans le rythme des Red Bull, il a pas creusé l'écart, il l'a pas non plus perdu trop, il a su doser son effort. Puis dès qu'il y a eu la safety car, alors là on a découvert un Alonso qui a attaqué, qui a cherché au plus vite à se débarrasser des retardataires pour remonter sur Weber, un Alonso très offensif. Donc moi j'ai aimé ce côté à la fois je gère, mais quand je sens l'occasion de pouvoir prendre des points, je gère plus.
Il sait gérer et puis il sait que entre guillemets il avait tel avec lui.
Oui. Oui. Ah, Vettel est son meilleur allié. Hein.
Son meilleur allié.
On verra si Matthew Schist et Helmut Marko seront son meilleur allié.
Ouais. Qu'ont dit les auditeurs d'Alonso?
Oh, plein d'éloges. Bon. Il a été mis deuxième par Enzo. Ça vous surprendra. Hein. Si moi je l'ai mis deuxième, normalement Enzo, il va pas l'avoir mis trop loin non plus. Deux superbes dépassements sur Lewis et Hülkenberg en début de course. Le dépassement sur Hülkenberg, il est magique.
Ah oui. Ah, c'est super.
Ah ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, dans un trou de souris, puis ensuite à l'intérieur de la trajectoire, c'était chouette. Et il met ensuite autant que possible la pression sur Weber. Son objectif est d'éviter un doublé Red Bull à Abu Dhabi. Oui. S'il fait deuxième, il est champion.
On y reviendra.
Ensuite, nous avons plusieurs, même quasiment que des troisièmes places. Pour Fab 007 qui nous dit course tranquille, il a bien profité des errements d'Hamilton en début de course pour s'échapper et se construire un beau podium. Bilo nous dit course un poil anonyme, mais son dépassement sur Hamilton est une bonne pioche.
C'est vrai. C'est... Ouais. Paradoxalement, voilà, entre les deux.
Mais je crois que ça s'est vite joué, puis, alors, mais apparemment, ils s'envoient des SMS et tout, maintenant. Ouais. On a Globen qui l'a mis troisième. L'homme fort du championnat continue sur sa lancée victorieuse et continue de fréquenter assidûment les podiums comme il l'avait annoncé. On le prenait alors pour un doux rêveur et peu de gens lui donnaient encore l'espoir de titre tant il était loin, mais la série tient toujours et il est en tête du championnat. C'est vrai que même moi, j'ai arrêté d'y croire, enfin, à un moment donné,
fin juillet, on se disait, ouais, c'est bon, Ferrari, concentrez-vous sur 2011.
Ensuite, on a Buchor qui l'a mis troisième, il a fait ce qu'il a pu face à des Red Bull en grande forme, Sato Kamikaze l'a mis troisième, Maël aussi, et Steph Kor l'a mis quatrième en utilisant l'adjectif pragmatique.
Non, mais il gère, il a raison. Hein.
Oui, voilà, mais c'est ça le truc, il est en tête, il a pas besoin d'attaquer, puis en même temps.
Il a son destin en main.
Il y a un écart tel que il est quand même obligé, s'il en a l'opportunité, de saisir sa chance. Il peut pas faire comme Button et se dire je prends zéro risque. Là il est quand même dans une position de se dire bon, si je peux attaquer, j'attaque.
C'est ce que je disais pour Weber il y a quelques semaines. C'est ils sont devant, ils peuvent gérer, mais ils peuvent pas gérer trop parce que voilà, il y a 3-4 fous furieux derrière qui eux vont pas gérer, ils vont pas se gêner pour prendre les points. Ouais. Non, tu n'as pas d'autres commentaires sur Alonso?
Ah bah tu sais, moi je pourrais en parler des heures.
On va passer au podium de la course dans ce cas.
Oui.
Et en troisième. Et il a un K dans son nom de famille. Donc déjà, hein, normalement, si vous réfléchissez bien, hein, vous avez une petite idée.
Bah oui. Vettel. À trois lettres près, il y a un K. Oh.
C'est donc Nico Hülkenberg. Troisième. Que j'ai mis moi-même quatrième. Comme les auditeurs. Là, vous verriez, Dino, il est en train de se prendre la vis... Enfin... Mais n'aie pas honte! Puisque notre cher ami Dino l'a mis premier!
Oui, à fond.
Mais j'ai envie de dire, ça se comprend.
Bah, disons que je pense que... Même si j'ai mis des... assez rapidement, en réaction à ce qu'avait dit Bilo sur le site, j'avais un peu tempéré, en essayant aussi d'analyser un petit peu comment il avait fait cette pole.
C'est un exploit, quand même.
Et c'est un exploit. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des circonstances. Il a su parfaitement jouer des circonstances, et c'est une magnifique pole qu'il a fait. Voilà. Déjà, moi, avec la pole, je m'étais dit, je vais pas forcément mettre premier, mais en tout cas, il sera sur le podium. J'attendais de voir la course. Et je trouve qu'il s'est battu suffisamment pour jouer sa chance, sans mettre en danger les leaders. Sa bataille avec Alonso, elle a été propre.
Alors, très belle. très très belle.
Alors je crois en plus qu'ils ont dit pendant le direct que il avait plus de traction, moins de vitesse de pointe mais plus de traction, ce qui faisait qu'il était plus rapide dans les parties lentes du circuit, mais que par contre dans les parties rapides, bah il perdait un peu de temps. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui avait aidé sa traction en qualif, parce que je pense que peut-être que la traction, notamment dans la grande montée, avoir un peu plus de traction et moins de vitesse de pointe, avait peut-être sans doute aidé pour donner un peu de patate à la Williams. Et il a joué sa chance tout en étant prudent, et sa course a été ruinée par une stratégie de Williams que je ne comprends pas. Ils l'ont fait rentrer au 15e tour pour chausser des durs. Ils ont joué petit bras alors qu'ils avaient les moyens de jouer gros bras et de se dire on va ravitailler en même temps que les autres. Il n'aurait pas fini dans les trois premiers, il aurait fini 4-5e, mais il n'aurait pas fini 8e. Moi je reste convaincu qu'il a fini 8e et que c'est un mauvais calcul de la part de Williams.
En plus je trouve, bien sûr il se fait doubler par les Red Bull, parce qu'il y a toujours, il y avait toujours la crainte, tu sais, c'est est-ce qu'il va pas se foirer au départ. Je trouve qu'il, c'est pas un départ excellent, mais c'est pas du tout un mauvais départ qu'il a pris, hein. Et d'ailleurs, justement, il a évité de se prendre une autre voiture.
Enfin, il se fait dépasser que par Vettel au démarrage.
Au démarrage, voilà, que par Vettel. Puis bon, voilà, la pluie n'étant plus là, il y a presque une logique. Je veux dire, malheureusement, quand t'as une Williams et que derrière, t'as deux Red Bull, une Ferrari et des McLaren, sur le sec, malheureusement...
Moi, je trouve qu'il a fait une belle course. À la fin, il a résisté à Kubica. Lui-même, il a dit, dans les parties rapides, je le rattrapais. Par contre, dans les parties lentes, je perdais beaucoup de temps parce que, il avait plus de traction. Moi, j'en avais moins. Et donc, avec la vitesse de pointe, je le rattrapais. Mais dans les parties lentes, il me remettait, la distance suffisante pour se protéger. Et on le voyait notamment sur Alonso. Juste avant le S, il se mettait bien dans la trajectoire pour éviter d'être doublé à l'intérieur. Très malin. Et ensuite, dès qu'il sortait du S, il avait un peu plus de traction et il prenait suffisamment de marge pour ne pas se refaire doubler au virage 4.
Alors, si on parle un peu d'avenir, est-ce que ça peut lui permettre de sauver sa tête chez Williams ? Parce que souviens-toi, on avait dit que sa place n'était pas assurée chez Williams l'an prochain.
La place de Hülkenberg, elle n'est pas garantie à son talent. On sait bien que le problème d'Hülkenberg, c'est pas son manque de talent. Le problème d'Hülkenberg, c'est son manque de d'apport financier. C'est la situation économique de Williams qui est pas forcément des plus enthousiasmantes. Et puis surtout, moi je pense que c'est peut-être quelque chose qui le pénalise, parce que du coup, ça lui donne un argument pour avoir des prétentions financières. Ouais. À la limite, il ferait rien. Il serait obligé de dire, d'accord, écoutez, je vous demande 5 millions par an. Moi je vais revoir, 2 millions par an. Vous gardez-moi et je demande que 2 millions par an. Ça fait peut-être le poids dans la négociation. Là, il est obligé de dire, écoutez, j'ai fait une pole position quand même. Surtout qu'apparemment, il a l'air d'être très sûr de lui, le garçon. Puis il est managé par quelqu'un qui est très sûr de lui aussi, Weber. Donc, je pense que au contraire, ça peut être chez Williams, en tout cas, ça sera peut-être un handicap. Maintenant, moi, Hülkenberg, je le vois bien chez d'autres. C'est pas un mauvais pilote. On l'a pas découvert ce week-end. C'est quand même un gamin. Moi, Hülkenberg, ça fait bien 4-5 ans que j'entends son nom. Il avait fait une très belle saison en A1GP. On peut penser tout ce qu'on veut de l'A1GP, mais quand même dominer un championnat, c'est pas rien. Il a fait des belles performances en F3000, en GP2, il est arrivé, il a connu un début de saison un peu comme en Formule 1. Début de saison difficile où Grosjean domine le début de saison, puis Hülkenberg a un peu plus de mal. Puis à un moment donné, au Grand Prix d'Allemagne, il est parti en fusée, il a eu le déclic, et là il a été inarrêtable. Je me dis que si le Brésil c'est son déclic, c'est le genre de pilote qu'il faut mettre la main dessus. Et quand on voit par exemple que Petrov c'est coup-ci coup-ça, alors que Hülkenberg lui il a une marge de progression constante, il s'est pas recassé à un moment donné.
Peut-être que
Renault pourrait réfléchir à le prendre. Et puis il y a d'autres équipes, Force India, puis je continue de penser que c'est un pilote qui ferait un très bon pilote numéro 3 provisoire chez McLaren, chez Ferrari.
Qu'ont dit les auditeurs de l'incroyable Hulk?
Alors, il a été le mieux placé par Enzo, qui l'a mis 3e. Bel exploit que celui de Nico samedi. En course, il a joué sa carte de bien belle manière face au ténor du championnat, sans mettre en péril leur course. Williams serait bien stupide de ne pas le garder. On a Steph Corr aussi qui l'a mis 3e, chanceux mais rattrapé par la réalité. Ensuite, Maël, Sato Kamikaze en 1004e, Globen aussi l'a mis 4e, le jeune premier a su, nonobstant, alors vous allez voir le mot nonobstant revient souvent dans les commentaires de Globen, parce que aussi c'est pareil, il s'est découvert une passion pour ce mot. Donc le jeune premier a su, nonobstant la faiblesse de sa Williams, repousser pendant un certain temps les avancées toujours plus intenses de ses adversaires, avant finalement de s'y plier avec bonne grâce. La suite de sa course n'a pas été folichonne, mais il glane de ci de là quelques points précieux. Bilot qui le met 4e, sa pole position a été l'événement du week-end, il rapporte des points précieux pour son team, un futur grand.
C'est vrai.
C'est vrai que il offre la 6e place pour le moment à Williams.
Oui.
Même s'il ne marque que 4 points, c'est 4 points qui font la différence. On a Fab007 qui l'a mis 5e, même si la course n'a pas été à la hauteur des qualifs, il a quand même réalisé un bon week-end et s'est bien défendu, tandis que Buchor l'a mis 6e, je le place un peu plus haut dans mon classement grâce à sa très inattendue pole position. Oui.
Alors qu'en fait, tu l'as mise très bas.
Ça n'est pas de sortir, voilà. Tu pouvais le mettre plus haut si tu voulais, Bûcheur. Voilà, c'est tout pour le commentaire des auditeurs.
On passe à la seconde place. Qui est forcément une Red Bull, vous en doutez. Vous vous doutez quand même que c'est Weber. Hein. Un peu la logique du classement qui a dominé. Parce que je l'ai mis 2e, les auditeurs l'ont mis 2e, tu l'as mis 3e. Weber, qu'on a pas spécialement d'ailleurs beaucoup vu.
Il a eu une alerte à la surchauffe moteur à la mi-course qui fait qu'il a pas pu jouer sa carte.
Voilà. On va pas avoir de la suspicion.
Non, mais je dis pas la suspicion. Non, voilà. C'est juste qu'il a une certaine forme de désamour pour Weber chez Red Bull.
Même si, justement, il y a eu une grande question qui a taraudé l'esprit de tout le monde pendant 2 heures. C'est, est-ce que Vettel pourrait laisser passer Weber?
Jamais de la vie.
Là, déjà, au Brésil, c'était non. Weber et Vettel encore qui ont eu droit, qui se sont fait une franche accolade
en
descendant des voitures. Hein.
Un tel amour.
Ça respire de l'amour et tout.
Mais en plus, c'est-à-dire que c'était très drôle parce que t'avais Vettel qui venait sympatoche, tu vois le mec. Moi, j'ai trouvé sympa d'aller voir son coéquipier, lui serrer la main. Et t'avais Weber qui l'a pas calculé pendant une trentaine de secondes, alors que toutes les télés du monde l'ont regardé.
Des choses à dire sur la course même de Weber, même si il a presque fait une course à la Rosberg. Hein.
Moi, j'ai mis dans mon classement, donc j'ai mis Hülkenberg premier, Alonso 2e et Weber 3e.
Tu l'as même mis devant Vettel.
Oui, alors parce que on a souvent donné des points aux pilotes Red Bull parce qu'ils avaient mené la course et dominé la course, etc. Voilà, je trouve que Weber a été un peu plus entreprenant que Vettel. Simplement parce que Vettel, il est premier, il avait rien à entreprendre vraiment.
Oui.
Voilà, donc je l'ai mis, je l'ai mis un peu plus devant parce que c'était un peu plus remarqué, il a mis la pression sur son coéquipier. Il y a eu une belle bataille de temps, et donc dans ce cas-là, quand il y a une belle bagarre, j'aime bien donner l'avantage aussi à celui qui est derrière. C'est aussi pour ça que j'ai mis Alonso et Hülkenberg devant. Voilà, plusieurs fois cette saison, on a donné des gros points aux pilotes Red Bull. Et maintenant, ils ont aussi la voiture qui est la plus forte en cette saison. Et on va pas non plus à chaque circuit, parce qu'ils sont les plus forts, les mettre premiers. Voilà, j'avais envie de...
Et les auditeurs, ils ont dit quoi de Weber?
Pas grand-chose, en fait. Si j'en regarde Sato, Kamikaze et Maël.
C'est une course très, très discrète, hein.
Oui, voilà, il a fait une course discrète. On a deuxième pour tout le monde, sauf pour Enzo, qui nous dit « assure son résultat, mais sans vraiment mettre la pression sur Vettel. Ce n'est pas ainsi que l'on gagne un championnat. » Il l'a mis 4e, Enzo. On a Steph Kor qui le met 2e en disant simplement « suiveur ». Maël et Sato Kamikaze ont mis 2e. Buchor l'a mis 2e, la même équipe, même constat que Vettel. Vous verrez, il y a une espèce de teaser dans ce qu'il vient de dire, parce que vous verrez ce qu'il a dit sur Vettel. Parce que comme nous, on remonte le classement. Vous l'écrivez, vous le premier, vous dites un truc. Si deuxième, vous avez envie de dire la même chose, vous dites « Ah, comme le premier ». Mais nous, comme on remonte, on fait un effet teaser.
Wow.
On annonce ce que vous allez dire dans le premier. Vous avez vu, c'est tout est étudié dans cette émission. On a Globen qui le met 2e. Nous pouvions craindre un encastrement précoce de la pointe effilée de sa monoplace dans le radiateur brûlant de son coéquipier, mais cela n'a pas eu lieu, et Marc Weber a su assurer sa position nonobstant l'essoufflement de Sébastien Vettel dans les derniers tours. T'as vu, j'ai même pas craqué, Globen. On a Bilot qui a dit « Il a assuré les points, mais comme il le dit, sa qualification lui empêche d'être vainqueur. » Tandis que Fab 007 nous dit, dans le rythme de Vettel toute la course, il a été victime du trafic, mais reprend des points sur Alonso. Voilà, c'est tout. Pour le moment.
On passe à son coéquipier?
Oui, fais-toi plaisir.
Vous vous doutez que c'est Vettel? Qui ne fait donc pas le grand chelem? Puisque tu as mis Hülkenberg premier?
Oui.
Ah, je sens que, sinon.
Tout le monde l'a mis premier, je crois.
Tout le monde l'a mis premier. On va vérifier. Ouais, tout le monde l'a mis premier. Sauf toi, Dino.
Ouais.
Qui l'a mis quatrième, donc. Ouais. Même derrière Weber, même derrière Alonso.
Mais, je le répète, hein, vraiment sur cette course, j'ai retenu les petits riens qui font la différence.
Vu que t'as déjà parlé de Vettel, t'as des choses à te dire en plus, ou
non.
Pas spécialement?
Non. C'est vrai. J'adore ce pilote,
mais,
c'est tout.
Mais...
mais, non mais, voilà, voilà, je le mets quatrième, mais j'adore ce pilote.
Mais c'est là où aussi la course est ennuyeuse, c'est que, il part devant et on le voit plus.
Bah, automatiquement, dès que tu mets Vettel devant et que il est
ouais.
devant son coéquipier, voilà, tu sais que il dispose d'une telle avance. C'est voilà, encore une fois, c'est pour ça que je les mets un peu en retrait. Il dispose d'une telle avance que j'ai du mal à dire qu'ils ont fait une super course. Ils ont une super voiture.
Oui.
Ils sont en ce moment Vettel, il est au sommet de ce qu'il peut faire. Voilà, moi j'ai rien à dire de plus sur Vettel. Il fait une très belle course.
Et les auditeurs?
Alors les auditeurs donc l'ont tous mis premier comme tu l'as dit, on a Sato Kamikaze et Maël qui l'ont mis premier bien évidemment, on a Bouchard qui nous dit il fallait qu'il gagne, il a fait le boulot, je n'en attendais pas moins de lui, on a Steph Core qui nous dit dominateur, on a Fab 007 qui nous dit un très bon week-end et une course très bien gérée, bravo, on a Bilo qui nous dit course parfaitement maîtrisée, cela fait 3 grands prix que ça dure, on a Enzo qui nous dit malgré son retard conséquent sur Alonso avant cette course, il n'a rien lâché pendant tout le week-end, mais il ne sera pas maître de son destin pour la dernière course. Laissera-t-il la victoire à Weber si celui-ci est derrière lui et Alonso troisième? Et enfin, on a Globen qui nous dit « Dominateur tout au long du week-end, c'est incontestablement lui le vainqueur, aspergeant de son talent l'ensemble du plateau. » Donc, voilà. C'est tout. Et toi, qu'as-tu pensé de la course de Vettel?
Je te l'ai dit, il est parti devant et on l'a plus vu. Je dis, il a presque fait une course à la Rosberg.
Et tu l'as mis premier? Mais en fait, faudrait que Rosberg fasse ça, faudrait qu'il gagne en fait, et tout le monde le mettrait premier.
Bah ouais, faudrait qu'il gagne.
Même sans le voir.
Non, puis j'ai plus de choses à dire sur Vettel en fait, sur par rapport au championnat.
Le classement.
Au classement, Vettel repasse en tête avec 262 points devant Alonso qui est à 257. Donc il n'y a que 5 points. Ça va.
Ah, je vais devoir tricher dans 15 jours, la semaine prochaine.
Donc Weber est à 216. Donc ça sera sans douter hein, ça serait Vettel
bah,
ou
oui.
Alonso.
Ah quoi que 216 bah non de ouais 216
bah,
c'est
non.
encore jouable hein. Ah bah non.
Bah non, 25
points, non.
25 points.
Ah Vettel ah bah c'est bon, ça sera c'est bon, je suis heureux. Ça sera soit Alonso soit Vettel, c'est bon, je suis heureux.
Au classement des équipes, donc on sait un Red Bull championne 468 points. À noter que McLaren est à 364 et Ferrari est à 355.
Faudrait que Massa fasse quand même une bonne course, mais ça peut être jouable.
Il faut qu'il fasse une bonne course.
Mais ça peut être jouable.
Mais il faut qu'il fasse une bonne course.
Mais ça peut être jouable.
Alors.
Oui, on peut continuer. D'ailleurs, on a continué comme ça pendant 3 heures, mais en fait, on a coupé au montage.
On a coupé, ouais. Dans l'autre classement, on a donc, à la dernière course, 4 pilotes, même si c'est 3 en vrai, mais il y a 4 pilotes qui peuvent être titrés.
Après.
Qui peuvent mathématiquement être titrés.
Ouais, c'est la première fois. Le maximum, ça a été 3.
C'est 3, voilà.
Ouais.
3 plusieurs fois, mais 4...
À plusieurs reprises, en 74, 81, 82, 83, 86, 86, 2003, 2007 et 2007.
Donc, Fernando Alonso est premier avec 246 points. Mark Webber est deuxième avec 238 points, il a 8 points de retard. Sébastien Vettel a 231 points, ce qui fait 15 points de retard. Et Lewis Hamilton, 222, ça fait 24 points de retard. Mmh. Donc une victoire est à 25. Et on peut quand même citer Button, donc qui avec 199 points, perd officiellement son titre.
Ouais.
À une course de la fin, quand même.
Mais alors, Shinji, dis-nous, toi qui es fort en calcul, quels sont les scénarios possibles pour que chacun des pilotes soit titré à Abu Dhabi?
Je fais mon beau petit tableau. Alors, donc, déjà, on peut noter que le maximum de points possible marqué cette année sera de 271 points. Pour Alonso, s'il gagne. Donc, je peux dire déjà que Mark Webber devra au pire être sixième. Au-delà, il aura forcément perdu. Sébastien Vettel devra au pire être troisième.
Ça devient plus difficile.
Ça devient plus ardu. Donc Alonso, lui, en tant que leader, il n'a pas cette limite pour l'instant, parce qu'il est leader en points.
Il peut même, s'il veut, abandonner.
Voilà. Techniquement, oui, pour l'instant, il peut abandonner. Si Weber gagne, Alonso ne doit pas être pire que troisième, puisqu'en fait, Alonso, s'il finit premier ou deuxième, sera forcément champion. S'il est troisième et que Weber est premier, c'est Weber qui est champion, puisque dans ce cas-là, Alonso aurait 261 points et Weber 263. Si Vettel gagne, il faut que Alonso soit, dans le meilleur des cas, cinquième. Sachant que dans ces cas-là, on aurait une égalité. Vettel aurait 256 points, Alonso aurait 256 points, ils auraient le même nombre de première place, ils auraient le même nombre de deuxième place, ils auraient le même nombre... Oui?
Ça se jouerait à la quatrième place, je crois, non?
Ça se jouerait à la quatrième place, puisque Vettel a quatrième place de plus que Alonso.
Ouais.
À noter que il peut y avoir des cas d'égalité. Weber et Alonso peuvent être à égalité avec 248 ou 250 points. Alors pour Alonso, ça représente une huitième ou neuvième place. Pour Weber, ça représente une quatrième ou cinquième place. Et alors, en cas d'égalité, ça serait quand même Alonso.
Au nombre de victoires.
Puisqu'il a une victoire de plus. Il peut même y avoir une égalité à 3, à 246 points. Alors, c'est si Alonso ne marquait pas de points. Pour Weber, c'est une sixième place. Pour Vettel, c'est une sixième place.
Quoi qu'il arrive, s'il y a égalité, quoi qu'il arrive, le titre va à Alonso.
S'il y a égalité à 246. S'il y a égalité à 256, c'est Vettel.
Pourquoi?
Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que Vettel aurait une égalité de victoire. Que peut-on en conclure? Parce que ça, c'est des chiffres, c'est des possibilités et tout ça.
Il faut qu'Alonso soit deuxième.
Bah, Alonso, voilà, faut qu'il soit premier ou deuxième. Pour pas se soucier de problème. Mais la clé, the key, c'est pas Weber, c'est Vettel. Actuellement, le meilleur scénario pour que Red Bull gagne, c'est de faire une première ligne en qualif. Et, faut bien le dire, la meilleure chance, c'est que Weber, que d'une façon ou d'une autre, soit premier, que Vettel soit deuxième, pour protéger cette deuxième place.
Je dirais même, voilà, faut vraiment que Weber soit premier assez rapidement parce que l'autre derrière va mettre une super pression. Mais en même temps, faudra aussi que Vettel tienne la pression. Pour les deux, ça va jouer le titre et Alonso va mettre la pression du feu de Dieu derrière.
Ça va se jouer. La clé, c'est Vettel. C'est vraiment s'il ne souhaite pas aider Weber, le titre va aller à Alonso.
Peut-être que Vettel le fera, mais le fera à contre-cœur et que derrière, peut-être qu'il se dira, après tout, moi j'ai montré que j'étais prêt à accepter les consignes. Maintenant, s'il y a un pépin technique ou une sortie ou si je fais une faute, on pourra juste dire, voilà, j'ai fait une faute, j'ai trop attaqué ou j'ai vraiment voulu défendre Alonso, j'ai fait une faute, j'ai laissé passer, mais j'y suis pour rien finalement, j'ai juste fait une faute. Donc, peut-être que dans son esprit, peut-être qu'il... C'est machiavélique ce que je dis, hein, c'est vraiment un plan tordu.
Ah non, mais le titre cette année, alors que ça a été une saison énorme, il peut avoir un immense parfum de scandale, hein. Parce que entre Alonso, il y a le cas Alonso qu'on a déjà parlé, mais imagine si Vettel ne veut pas.
Ah bah oui, si Vettel ne veut pas.
Imagine que Vettel fasse perdre au Weber.
Mais encore une fois, je pense qu'on aura pas ce scénario. Moi, je pense qu'Alonso sera deuxième ou premier.
C'est pas,
oui. Ou alors, il y a un autre scénario.
Ça réglerait le problème.
Il y a un truc qui pourrait, il y a le meilleur allié d'Alonso, c'est Hamilton.
Ah oui, alors là,
Je parlais de
du parfum de scandale, mais on peut avoir le plus grand hold-up de l'histoire de la F1.
Non, mais même pas. C'est-à-dire que de Hamilton qui peut être champion, mais si Hamilton gagne, il empêche au Red Bull de marquer 7 points de plus qu'Alonso.
Ah oui.
Et donc tout d'un coup, la donne est différente parce que c'est des jeux de 3 points en 3 points, puis de 2 points en 2 points. Et là, il faut vraiment qu'Alonso soit très loin. Moi, je crois pas qu'Alonso sera plus de cinquième. Moi, honnêtement, je le dis clairement, en tant que fan de Ferrari
Je pense qu'il sera sur le podium, hein.
Moi, je prie pour une victoire d'Hamilton, qui avait été très fort l'an dernier. Je me dis, si Hamilton y gagne, le titre pour Alonso, il est quasiment joué, parce que il faudra qu'il soit quatrième ou cinquième par rapport à Weber, pour perdre les 8 points qu'il a.
Ou alors, faudrait un hold-up intergalactique. Victoire d'Hamilton et abandon des trois autres.
Ah bah oui.
Non mais vous imaginez un peu ce que ça...
C'est pas impossible, hein. Un crash entre les trois premiers et Hamilton qu'on profite derrière.
Si jamais des crashs, une panne technique, on sait que les moteurs sont en mini.
Ce que je te disais sur Button, c'est important que Button il soit resté derrière Hamilton et qu'il n'ait pas attaqué, parce que ça le laisse dans la course au titre. Mathématiquement, il est encore là, une course au titre, on sait jamais ce que ça peut donner.
Si Hamilton, putain, mais s'il gagne le titre, on en parle encore dans 20 ans.
Hein. Ah, je me pends.
ce serait un hold-up.
Non, je retire ce que j'ai dit, c'est un coup.
Voilà.
Non, je viens d'affronter le destin, là. Non, je retire.
Non, dis pas des trucs comme
papillon,
ça.
Effet papillon. Dis pas des trucs.
Ça serait juste le plus gros hold-up en 60 ans de F1, quoi. C'est vraiment le gars qu'on attendait vraiment pas.
Même, tu vois, là, encore une fois, dans mon schéma machiavélique, si c'est Hamilton devant Vettel, Weber, et si c'est Vettel, Hamilton, Weber, Alonso, on peut très bien imaginer Vettel qui laisse filer la victoire à Hamilton, hein, discrètement. Mais mine de rien, faire une erreur, ah, Hamilton est passé, j'arrive pas à le rattraper. Voilà. Bah dans ce cas-là, je sais très bien que, sauf gros pépin pour Alonso, qui aura quasiment un moteur neuf à Abu Dhabi.
Ah ouais?
Bah oui, parce qu'en fait, à Bahreïn, il a changé son moteur entre les qualifs et la course.
Ah oui.
Et dans le règlement, si tu changes ton moteur dans les qualifs et la course, tu n'as plus le droit de l'utiliser jusqu'à la fin de l'année, sauf lors du dernier Grand Prix.
Ah oui, au cas où.
Voilà, donc c'est un moteur, au début, quand ils s'inquiétaient des moteurs, qu'ils ont vu au début. Sauf qu'entre-temps, ils ont eu l'autorisation de la FIA pour regarder leur moteur et y retoucher un petit peu. Donc du coup, ils savent que leur moteur, aujourd'hui, tiendra la course et que, voilà, ils sont pas inquiets pour leur moteur puisque le problème a été résolu. Donc ils ont finalement un moteur neuf en réserve pour le dernier Grand Prix. C'est pour ça que finalement, la Ferrari, ils sont contents parce que ils vont pouvoir utiliser un moteur à fond à Abu Dhabi où ils en auront besoin, et un moteur neuf. Là où leurs rivaux, c'est pas forcément clair qu'ils auront un moteur neuf. Sur un circuit rapide comme Abu Dhabi, ça peut aussi être un avantage.
Ça nous promet une belle course tous, hein.
Oui, voilà, pour ça que moi, honnêtement, je fais pas le scénario. Je verrai dimanche après-midi.
Non pas qu'il n'y aura pas de calcul, mais je veux dire, c'est la dernière course. Si t'y vas pas cette année, pour certains, ça sera plus jamais. Donc.
Mais c'est pour ça que moi, j'en viendrai à préférer que Red Bull, quitte même à ce qu'il perde le titre, que Red Bull ne donne pas de consigne. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Alonso. Hein. Alonso, il a été très malin parce qu'il a dit.
Ben oui, mais c'est dans son intérêt.
Il a dit non, mais de toute façon, depuis le début de l'année, Red Bull, ils nous disent que jamais ils demanderont à leurs pilotes de s'incliner, etc. Que c'est d'abord les pilotes, que c'est un combat entre les pilotes. Aujourd'hui, ils sont assurés du titre. Qui laissent leurs pilotes se battre librement, comme ils le disent depuis le début de l'année. Et il est très malin, Alonso. Et forcément, ça sera le truc, c'est-à-dire que, il y a aussi ça, c'est-à-dire que s'ils font une, ça sera même encore plus polémique que l'Allemagne, parce que s'ils font une consigne, on pourra dire, oui, mais c'est parce qu'ils jouaient le titre, mais en même temps, on dira, c'est quand même des sacrés hypocrites, parce que depuis le début de l'année, ils nous sourient en disant, on fait pas de consigne. Mais en fait, là, quand ils en ont besoin, bah, leur intérêt, leur code éthique du sport, etc., ils s'assoient, comme Ferrari s'est assis dessus, ils s'assoient dessus, parce que, bah, à la fin, il y a le titre pilote.
On passe au fait marquant?
Oui.
Alors, quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Corée du Sud? Est arrivé troisième, plus que deux courses et toujours cinq prétendants.
Ouais.
Avec 21% et 7 votes. C'était les auditeurs qui avaient dit ça, je crois.
Non, c'est moi.
Ah, c'est toi?
Ouais.
Wouhou! Vettel qui a presque perdu le titre, 27% et 9 votes, et donc est arrivé premier, l'erreur de Weber à un très mauvais moment pour lui, 52% et 17 votes. C'est les auditeurs qui ont gagné. Waouh.
Et donc moi je dirais le fait marquant de ce Grand Prix, allez, je dirais quand même la pole position de Hülkenberg.
Moi je vais quand même dire le titre constructeur.
Et donc les auditeurs dans l'os.
Ah bah non, ils sont... Je pensais que c'était les titres... Ah non, c'est de là qu'il vient.
Ah bah non, mais il y a une formulation. Alors c'est la proposition d'Enzo d'ailleurs. Et Enzo qui nous dit plouf. Ah non, on a trois faits marquants. Enfin, on aurait l'équivalent d'un troisième fait marquant. On a Enzo qui nous dit nouveau titre pour une voiture conçue par New Way pour une troisième équipe différente. Voilà. Donc, ah, il insiste pas... sur le côté New Way.
C'est pas exactement pareil, donc oui. C'est vrai qu'un ingé qui gagne trois titres avec trois écuries différentes. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup.
La Braun qu'on a gagné deux. Non, trois. Braun, il en a gagné trois.
Oui, c'est vrai.
Benetton, Braun et... deux saisons de suite quand même. Hein.
Ah, mais Braun et Newey, c'est les deux grands ingénieurs des années...
Bah, des années 2000.
Ouais.
Alors, le troisième fait marquant, lui-même disait que c'était pas vraiment un fait marquant. C'est Fab007 qui nous disait un Grand Prix plutôt plat, un peu étrange par moment, rien de bien excitant. Donc voilà, c'est...
Bah, oh, je trouve que c'est... Je le disais en introduction, c'est vrai qu'on a l'habitude au Brésil, il se passe toujours des choses. C'est vrai que c'est presque surprenant qu'on se soit fait chier, en fait. Faut bien le dire, hein, quasiment jusqu'à la safety car, et encore même après, ça a pas non plus transfiguré la course. Hein. Faut
donc, alors, on prend celui d'Enzo ou on prend celui de Fab? Réfléchis bien, Shinji. Cherche ton intérêt.
Bah, le mieux, c'est peut-être prendre celui de Fab, qui est pas pareil, hein, qui est plus éloigné, voilà.
Qui t'évitera de disperser tes voix.
Voilà aussi.
Donc on va mettre un grand prix plutôt plat. Plus
ce qui est drôle pour un grand prix comme Interlagos. Donc c'est bon, on a nos trois faits marquants.
Ah oui.
Ou comme d'habitude, hein, c'est sur le site. On passe au drive-thru.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors, est-ce que déjà nos auditeurs ont un drive-thru? Est-ce que tu as un drive-thru?
Alors, je vais peut-être commencer par le mien, parce que j'en ai déjà un peu parlé. C'est un drive-thru à l'intention d'Horner, et globalement de la direction de Red Bull, qui a fait quasiment la surprise, quoi. Ils se sont surpris des propos, ils ont dit qu'ils comprenaient pas, puis là on a encore le summum, c'est qu'on a Horner qui a déclaré, après la course, dans une interview, qu'il allait essayer de comprendre la source du mal-être de Weber chez Red Bull cette saison. Pour l'année prochaine.
Il se fait éducateur spécialisé.
Voilà. Non mais surtout, il va essayer de comprendre. C'est-à-dire que, attends, est-ce que tu viens de temps en temps à l'usine? Est-ce que des fois sur les grands prix, tu sors. Voilà. Juste sortir, parler avec des gens. Hein. Parce que tout le monde sait très bien quelles sont la source des états d'âme. Et même ça, c'est-à-dire que dire on va essayer de comprendre, c'est totalement nier ce qu'a dit Weber en disant moi je sais qu'il y a un favori parce que voilà c'est un produit Red Bull etc, c'est tout ce qu'il a dit, et derrière on a Horner qui dit c'est bizarre, je comprends pas, alors que Weber il explique pourquoi il se sent, c'est pas qu'il se sent pas bien, mais c'est qu'il a une situation qu'il supporte comme il peut le supporter, mais que qui est difficile pour lui, il l'explique. C'est clair, c'est limpide, et là derrière on a Horner qui dit je comprends pas, je crois qu'il va falloir qu'on essaie de trouver, etc. C'est comme dire à Weber que finalement le problème c'est pas ce qu'il pense.
Il y a énormément
de problèmes, il y a une autre source, et que Weber a besoin de comprendre. Tu sais que c'est peut-être lié à la mère ou au père, ou il y a un truc, tu sais, lié à l'enfance, faut qu'il aille voir un psychologue parce qu'en fait, tu vois. Il a pas compris vraiment son problème. Il pense que c'est lié au fait que Vettel est le chouchou, mais en fait le problème c'est pas ça. Il a un autre problème. On sait pas lequel, mais il en a un autre. Et j'ai trouvé ça, franchement, autant j'ai défendu Horner sur certains trucs, et là j'ai trouvé ridicule dans ses déclarations Horner. Voilà, donc pour moi ça sera un très gros drive-thru que sa réaction au propos de Weber.
Alors moi j'aurais un petit drive-thru. Là encore, c'est chiant quand il se passe rien. Ce serait pas tant sur l'organisation, mais peut-être même un peu sur les pilotes. La course s'est plutôt bien passée, mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc où okay, ça avait été un beau bordel, c'est quand même dimanche. C'est tout ce qui était drapeau bleu, retardataire. Alors, il y a eu le cas de la safety car, où quand même on a eu un pilote, deux retardataires, un pilote, deux retardataires, un pilote. Mais même globalement, à un moment, t'avais quand même des paquets de 6, 7, 8 voitures, avec des retardataires au milieu, et pourtant les drapeaux ils étaient, hein. C'est pour ça que je veux pas non plus taper sur les organisateurs.
Non.
Et je sais pas ce qui s'est passé dimanche, c'était le bordel au niveau des drapeaux
mais,
bleus.
Mais c'est ça le truc, c'est justement le problème, c'est que certains pilotes se disent, attends, parce que le drapeau bleu il est agité, mais comme t'es là, t'as 4-5 pilotes, voilà,
ah oui,
les mecs se disent, pour qui? Est-ce que c'est pour moi, ou est-ce que moi je vais me décaler, mais est-ce que par hasard derrière il y a pas Digrassi qui est juste derrière avec qui je me bats, il y a pas Digrassi qui va me doubler? Voilà, je pense qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que ils étaient tellement parfois nombreux que t'avais, je me rappelle avoir vu Vettel, t'avais deux ou trois retardataires, t'avais Weber, t'avais 4 ou 5 retardataires, t'avais Alonso, t'avais 3 ou 4 retardataires, t'avais Hamilton, et là tu sais très bien que dans chaque groupe de retardataires, les mecs ils se tiennent dans la seconde, qui se battent pour une place, et que leur place ils veulent la garder.
En plus t'as des paquets avec les deux pilotes d'équipe, enfin. Il me semble qu'à un moment, les commentateurs ont dit que Kubica dépassait Hülkenberg.
Oui, alors que non, c'était Petrov.
C'était Petrov qui dépassait même pas Hülkenberg, je crois que qu'il dépassait Barrichello.
Mais c'est ça, ça a été confus. Alors d'ailleurs, on a deux drive-thru qui en parlent. On a le Enzo qui nous dit un drive-thru pour les attarder lors du restart de la course.
Ouais.
Après la safety car, qui ont généré de trop gros écarts entre les trois premiers, ce qui c'est vrai qu'a contribué à éviter de relancer la course, vraiment d'avoir une, vraiment une fin de course très très tendue. Et on a Fab 007 qui revient sur un truc que t'as dit qui était important sur le fait de du fait de la présence des inter des enfin le fait qu'il y ait des intercalés. Il dit, ce n'est pas vraiment un drive-through sur le Grand Prix en lui-même, mais plutôt sur la bêtise d'avoir supprimé la règle selon laquelle les voitures à un tour pouvaient doubler le safety car, car pour revenir en queue de peloton, surtout sur un circuit relativement court, comme Interlagos.
Ouais, c'est vrai qu'ils ne peuvent plus doubler. Ils ne peuvent pas non plus se laisser déporter. Elles peuvent pas dire, on va ralentir, puis on va laisser passer ceux qui sont censés être devant.
En termes de consommation, dans ce cas-là, tu aurais des mecs qui seraient derrière, mais qui auraient fait un tour de moins.
Ah, ouais.
Alors qu'ils sont à un tour. Donc voilà, t'es obligé de les laisser passer. Mais
ou alors on fait un système de double fil.
Oui, bah comme c'était à une époque en NASCAR.
Double fil, une file avec ceux qui sont dans le tour et une deuxième file pour tous ceux qui sont retardataires.
Mais t'imagines toi en Formule 1 avec les virages et tout faire deux files comme
ouais,
ça.
C'est pas évident.
C'est non, je pense qu'il faut. C'était le problème.
De toute façon, la safety car sera toujours un problème insoluble.
Oui, voilà. C'est un truc qu'on voit pas souvent, mais dès qu'on le voit, il y a forcément un truc à dire.
Est-ce qu'il y a d'autres drive-thru sur d'autres thèmes?
Alors, il y a un drive-thru de Bilo.
Ouais.
À l'intention de Red Bull. Car il leur suffisait d'une petite consigne pour que Weber soit favori à Abu Dhabi. Au lieu de ça, ils doivent espérer un doublé. C'est très bien de privilégier l'équité, c'est tout à leur honneur. Mais il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Car à Silverstone, on n'a visiblement pas eu la même notion d'équité. Et s'assurer du titre pilote plutôt que de vouloir à tout prix que Vettel soit champion. J'espère qu'au cas où Vettel serait premier devant Weber et Alonso, l'équipe se rendra enfin à l'évidence. Et enfin, on a un drive-through qui est pas vraiment un drive-through de Buchor. Donc Buchor qui nous dit pas vraiment un drive-through, mais un regret, car le Grand Prix du Brésil est un peu particulier, surtout cette saison avec les 50 ans qu'aurait eu Ayrton Senna. Il est donc dommage de ne pas y avoir vu un des pilotes locaux y briller de quelque façon que ce soit.
En plus, comme on a dit, c'était quand même l'anniversaire de sa dernière victoire. Sur ce, on passe au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Alors, rappelez-nous la question qui n'était pas sur le Maroc, mais bien sur la Corée.
Alors, la question était de savoir ce qu'avait apporté Herman Tilke en plus de ses plans et de ses conseils pour le circuit de Corée. Et la réponse était Shinji.
C'était des ouvriers.
Oui, des ouvriers allemands, pour aider les ouvriers coréens à terminer le circuit. D'ailleurs, je crois même qu'il y a eu des militaires qui ont fini le circuit dans les derniers jours. On a convoqué l'armée coréenne pour finir un circuit. Voilà. Et il n'y a eu qu'une seule réponse.
Est-ce qu'au moins c'était une bonne réponse?
Et c'était une bonne réponse. Une bonne réponse de Loulaz, qui nous propose, et ce qui sera donc la question. Top opposition, qui nous propose cette question. Quelle était la vocation première du site qui accueille aujourd'hui le circuit d'Interlagos? Donc, pour répondre, vous allez sur le site du SAV, www.savf1.fr, rubrique contact, vous choisissez bien comme objet de votre formulaire question top opposition, enfin concours top opposition, et vous répondez en pensant à mettre une petite question pour le Grand Prix d'Abu Dhabi qui sera le dernier Grand Prix du concours Top Opposition et nous effectuerons un tirage au sort quelques semaines, enfin vers la fin novembre, pour départager le vainqueur.
Alors, comme Abu Dhabi, c'est Abu Dhabi, est-ce qu'on applique la règle dite de Corée du Sud?
Je pense quand même, il y a déjà eu une édition, il y a déjà eu pas mal d'infos qu'on filtrait, on connaît un peu le circuit.
Ouais.
Bon, allez, on peut donner une alternative. Allez, comme ça, voilà. On a remarqué que sur la Corée, quand s'ils ont pu trouver sur la Corée, ils ont fait des questions sur la Corée. Donc, à la limite, on risque rien à donner une alternative.
Une alternative.
Voilà, en sachant. Donc ça, c'est toi qui vas choisir le pays, Shinji. Ça peut aussi être un thème, hein, sur la Formule 1, pas forcément un pays.
Ah bah tiens. Puisqu'on est on sera à Abu Dhabi. Eh ben, si vous avez pas de questions sur Abu Dhabi, vous pouvez nous poser une question sur, les pétroliers. Enfin, pas les bateaux, hein.
Non. Bien les sûr. Pétroliers en Formule 1.
Voilà. Qui est un vaste domaine.
Ah oui, voilà. Là, vous aurez, et puis c'est lié à Abu Dhabi.
Enfin, c'est voilà, lié c'est lié à Abu Dhabi. Voilà. C'est pour ça.
Non, voilà. Donc, vous nous posez une question, enfin, vous posez à vos collègues, via le formulaire, une question, soit sur Abu Dhabi, soit sur les pétroliers en Formule 1.
Attention, les pétroliers, hein, pas les lubrifiants. Eh oh. Mais précis.
Shinji veillera au grain. Alors si vous trouvez des questions sur un pétrolier d'Abu Dhabi,
d'Abu Dhabi, c'est nickel. Ouais. Sur ce, on va se projeter. Ah, seulement dimanche.
Ouais. Ah. On va s'engager parce que bon, on a un peu parlé des
5 jours. Des scénarios, donc mais on va là, c'est on s'engage. Puis ce sont de grandes conséquences sur lesquelles on s'engage.
Ben du coup, si on s'engage, on pronostique un champion aussi avec.
Alors, dis nous pour Abu Dhabi.
Ah bah
le
moi,
Grand Prix du Sunset.
Moi, je reste sur mon intention première, victoire d'Hamilton et donc titre d'Alonso. Je fais plaisir aux fans d'Hamilton, je leur concède la victoire.
Je vais dire Weber.
Et titre de?
Titre de Weber. Je pense que Vettel devra courber les chines.
Oui, bah c'est bien comme ça. Il y en aura. Ça se trouve c'est Vettel qui va être champion. On aura eu tout.
C'est possible. Trucs, voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.
On peut peut-être aussi parler des auditeurs, plus particulièrement de l'émission d'Abu Dhabi.
Oui.
Et leur dire que
ça, bon, on s'y prend un peu tard, faut le dire.
Mais en même temps, on n'a pas envie de passer le dernier Grand Prix tout seul non plus.
Non, c'est vrai.
On a envie de fêter ça, surtout moi, si je suis champion. Voilà. Si Alonso est champion et que donc je suis champion par donc ce qu'on propose c'est que s'il y a des volontaires pour participer à l'émission,
voilà.
Vous nous le faites savoir, soit en nous envoyant un petit mail, soit en disant dans l'article de l'émission que vous avez envie de participer à l'émission qui aura lieu mardi prochain.
Voilà.
Et en fait on verra en fonction du nombre de candidats qu'il y aura, on improvisera ça un petit peu et on va vous inviter à participer au début de l'émission. On fera un petit jeu autour de la question actuelle qui passe inaperçue, autour de l'éphémérie de Shinji. Et le vainqueur de ce petit jeu gagnera le privilège de rester avec nous pendant toute l'émission. Et ça, c'est un privilège.
Ah bah oui.
Voilà. Hein. Nous, on joue de ce privilège depuis 2 ans. Voilà.
Donc sur ce, on vous quitte. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bien évidemment, comme d'habitude. Ça dépend à l'heure où vous nous écoutez. Et une bonne nuit. Et comme d'habitude, nous vous laissons à notre ami de la poésie.
Très inspiré par La Fontaine ce soir.
C'est pas très clair quand vous allez l'écouter, mais il paraît que c'est inspiré de La Fontaine.
Oh, quand même, c'est le titre d'une des plus belles fables de La Fontaine, quand même. Oh, une des plus courtes aussi. Ouais, je donne des indices pour que vous puissiez reconnaître, parce que c'est vrai que c'est un petit peu tiré par les cheveux.
Sur ce, nous vous laissons sur ces quelques mots.
Qui se fait braquer par un Brésilien perd son titre le lendemain.